Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'émotion à Tomblaine en Meurthe-et-Moselle au lendemain du crash d'un avion qui a fait 11 morts. Aucun passager n'a survécu, un drame aux circonstances très floues. On sera sur place dans un instant. Plus de 1000 décès supplémentaires depuis mercredi dernier. Premier bilan de la canicule, loin d'être définitif. Et les Bleus qui sont arrivés dans le New Jersey à la veille de leur 16e de finale de Coupe du Monde face à la Suède. Cette nuit, le Canada s'est qualifié pour la suite de la compétition.
11 morts, bilan d'un crash d'avion hier près de Nancy.
L'accident s'est produit en fin de matinée du côté de Tomblaine en Meurthe-et-Moselle. Tous les passagers de l'appareil ont été tués. Un pilote, 5 moniteurs et 5 personnes qui effectuaient leur baptême de parachute sous les yeux de leur famille. Écoutez ce témoin, il a assisté à la scène.
J'ai vu l'avion qui montait en l'air comme ça. Quand on l'a vu monter, il avait vraiment le nez en l'air. Et d'un coup, plus de bruit. Et d'un coup, il est parti sur la droite. Du coup, je vois, il y a un truc qui se passe pas bien. Je l'ai pas vu tomber, j'ai juste entendu le bruit. Puis, le temps de faire le tour. Il y avait déjà un monsieur qui était sur place en train d'éteindre. Il m'a dit que, il arriverait pas à éteindre le feu avec le seul extincteur qu'il avait. Donc, j'étais en recherche un. On a essayé de, que l'avion prenne pas feu. Et puis, on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, quoi. Et j'ai vu officiellement, tous les corps, sans vie par terre. On l'a vu tout de suite qu'ils étaient tous morts sur le coup, quoi.
Un drame et de nombreuses questions, de nombreuses zones d'ombre. On retrouve Maxime Cliérusa du service police-justice en direct de Tomblaine ce matin. On ne connaît pas à cette heure les causes du crash. Si la chute de l'appareil reste inexpliquée, Maxime, plusieurs pistes sont à l'étude.
Oui, s'agit-il d'une panne et notamment d'une panne moteur? Les témoins présents sur place hier racontaient un silence avant le crash de l'avion. L'appareil, un Pilatus, ne pouvait embarquer que 11 personnes. Il était donc rempli en totalité. Les passagers ont également pu se ranger d'un côté de l'appareil de sorte à causer un déséquilibre, ou bien le pilote a-t-il tout simplement fait un malaise? Voici les questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs. Ils étaient 35 hier de la gendarmerie des transports aériens et ce jusque tard dans la nuit. L'objectif des enquêteurs hier a été de figer la scène de manière à ce que tout reste intact pour ensuite réaliser un certain nombre de prélèvements sur les débris de l'avion, tout d'abord sur les affaires des victimes, ensuite et notamment leur téléphone portable, voir si des photos ou vidéos prises avant le crash pourraient aiguiller les enquêteurs. Enfin, la boîte noire, ce type d'avion n'en possède pas forcément, mais cela pourrait être une aide précieuse si les enquêteurs en retrouvent une. Des enquêteurs déjà de retour ce matin sous la pluie ici à Tomblaine qui continuent d'analyser la carcasse de l'appareil toujours présente sur les lieux du drame.
Maxime Cliérusa du service police-justice en direct de Tomblaine ce matin pour RMC. Il est 7h03. Et enfin, la canicule touche à sa fin. Une accalmie sur le front des températures, même si elles resteront élevées. Ce lundi, 5 départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange après 11 jours d'un épisode qui restera dans les mémoires de par son ampleur, sa précocité et son impact sanitaire, avec des premiers chiffres loin d'être définitifs. Depuis mercredi dernier, Santé publique France a enregistré une surmortalité, environ 1000 décès de plus que la normale par rapport au mois précédent, des victimes souvent âgées et seules, Louise Salé.
Lundi dernier, comme tous les jours, Gabriel, 95 ans, s'est rendu sur la tombe de sa femme en Saône-et-Loire. Mais accablé par la chaleur, il s'est effondré dans l'allée du cimetière, raconte son frère Jean.
Quel que soit le temps, il allait au cimetière, quoi qu'on lui dise, en pleine canicule, à 13h15, on doit peu de choses près. Sa casquette était dans la voiture, donc il n'avait plus aucune précaution, donc il en est mort, évidemment.
Depuis vendredi, à Dijon, le docteur Rémi Bonin, de SOS Médecins, a rédigé 4 certificats de décès pour des personnes âgées de plus de 75 ans.
Je suis allé chez une personne âgée qui était isolée à son domicile. Les filles, nous sommes allés pour constater le décès, mais c'est des choses qui auraient pu être évitables. On arrive dans des endroits vraiment étouffants. Le truc, c'est vraiment la chaleur dans l'appartement.
Une surmortalité également constatée à l'hôpital par le docteur Hélène Pizu aux urgences de Montauban.
C'était des décès évitables. 23 ans après la canicule historique de 2003, les choses n'ont pas tant changé que ça. Pour justement climatiser l'intégralité des EHPAD et également les services hospitaliers, ça n'est pas fini.
En 2003, la canicule avait causé près de 15 000 décès.
Et de fortes chaleurs qui pourraient être de retour dès la semaine prochaine. Scénario probable, nous dit Météo France, qui a levé l'alerte aux orages ce matin. Plus de 244 000 éclairs ont frappé le sol hier avec quelques dégâts matériels en Île-de-France. Notamment, des perturbations sont toujours à prévoir sur le RERC et plusieurs lignes du Transilien. Les travaux devraient durer plusieurs jours. Dans le Nord, c'est le trafic des TER qui sera perturbé ce lundi du côté de Valenciennes. Sur les rails, toujours sans lien avec les orages, cet incendie près des voies hier à Valence qui a provoqué d'importants retards sur la ligne sud. Est. Plusieurs TGV ont été bloqués avec plus de 4 heures de retard pour certains. Philippine Boulet était aux côtés de voyageurs lors de leur arrivée à Paris-Gare de Lyon.
Sac de randonnée sur le dos, Héloïse pose enfin le pied à Paris après plus de 7 heures de voyage et 4 heures de retard.
Oh bah sur le moment, c'est fatigant, on en a marre.
De longues heures d'attente à bord de son train, sans information ni collation.
Il passe toujours avec de quoi boire, de quoi manger, si jamais il y a du retard. Mais ironie du sort, ils les ont donné 20 minutes avant l'arrivée. Des petits gâteaux, une petite bouteille d'eau. Bon, c'est l'intention qui compte, hein, mais...
De retour d'un voyage dans les Alpes, ce couple de Parisiens est resté bloqué 3 heures à Chambéry.
La gare était brûlante. La billetterie était fermée. Il y avait énormément de monde assis par terre. C'était la débandade.
Philippe et Véronique, eux, rentrent d'un week-end à Avignon. Leur train a été arrêté 3 longues heures sur les voies.
C'est sûr que 3 heures de plus, ça fatigue un petit peu quand même.
Et aujourd'hui, pas le choix pour eux.
On travaille.
Bah avec quelques heures de sommeil en moins.
L'incident a également causé d'importants retards sur plusieurs trains en gare de Marseille-Saint-Charles hier soir.
La course contre la montre au Venezuela pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres après le double séisme de la semaine dernière qui a déjà fait 1450 morts. Près de 50 000 personnes sont portées disparues selon les Nations Unies. Le Canada décroche son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Vainqueur de l'Afrique du Sud 1-0 hier soir, les Canadiens affronteront au tour suivant le vainqueur du match entre les Pays-Bas et le Maroc la nuit prochaine, 3h du matin. Ce sera à vivre sur RMC. Avant ça, le Brésil affronte le Japon, 19h, suivi d'Allemagne-Paraguay. Le vainqueur de ce match nous intéresse puisqu'il affrontera en huitième de finale la France, on l'espère, ou la Suède, opposée demain soir à 23h, avec quelques changements à prévoir dans le 11 de départ, Jean-Louis Tour.
Oui, quand une équipe fonctionne bien comme la France depuis le début de la Coupe du Monde, les zones d'ombre sur la composition d'équipe sont rares. Didier Deschamps a les trois quarts de son 11 en tête, hormis peut-être deux postes situés sur le côté gauche. En défense, une alternance pourrait offrir une 60e titularisation à l'expérimenté Lucas Digne, au détriment de Théo Hernandez, parfois en difficulté, comme sur le pénalty concédé contre la Norvège. Un peu plus haut sur le terrain, l'hésitation concerne deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Désiré Doué. Si la logique d'alternance se poursuit, Barcola pourrait débuter cette rencontre et sa vitesse contre la lourde défense suédoise constituerait un atout. Pour l'instant, et contrairement à certaines précédentes rencontres, Didier Deschamps n'a pas encore travaillé de mise en place tactique. Les doutes seront donc probablement levés tout à l'heure lors de l'entraînement de veille de match à 23h dans le New Jersey, où les Bleus sont arrivés il y a quelques heures.
Et on vous retrouvera, Jean-Louis Tour, au commentaire de ce match demain, 23h, match des 16e de finale de la Coupe du Monde France-Suède. Et puis Romain Grégoire portera le maillot tricolore sur la route du Tour. Le cycliste de 23 ans a remporté les championnats de France hier à la Tour du Pin en Isère. Un rêve pour le coureur de la Groupama FDJ United, déjà sacré 2 fois en junior.
C'est juste incroyable, c'est franchement une explosion de bonheur. C'est un titre que j'ai tellement voulu, que j'ai tellement rêvé, j'ai tout mis en place pour aller chercher. C'est un truc de malade, se dire que je vais pouvoir vivre ça sur le Tour de France. Je pense que c'est une chance énorme. J'ai envie de dire, on va essayer de profiter tous ensemble parce que c'est une victoire d'équipe, c'est juste fou.
Et le Tour de France, ça commence samedi sur RMC, départ de Barcelone, ville hôte de ce Tour de France, de grand départ.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 sur RMC. Et Thierry qui nous appelle au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Thierry? Vous êtes gestionnaire d'un site d'e-commerce en Charente.
Ouais.
Vous en pouviez plus là de la canicule?
J'en peux plus. La canicule, ouais, j'en peux plus de dormir dehors. C'était marrant au début, mais...
Vous nous avez appelé la semaine dernière, vous vous êtes dit, bon, allez, au début, avec ma femme, on s'est dit, on va sortir la tente, on va dormir dehors, et là, vous n'en pouvez plus.
Non, c'est marrant, mais là, c'est trop long.
Ouais, c'est trop long. Mais la maison s'est pas rafraîchie?
Maintenant, voilà, le problème, il est là. Alors, il y avait des spécialistes, l'autre fois, qui expliquaient le phénomène, j'ai perdu le nom. Donc, on est monté à 30 dans la chambre, et malgré les ventilateurs, les fenêtres ouvertes, la température ne baisse pas.
C'est ça, ça reste emmagasiné dans les murs.
Il paraît qu'il faut des jours et des jours pour la sortir, donc du coup on continue à dormir dehors. Enfin, c'est l'enfer.
Non mais en fait vous dormez très très mal, vous vous réveillez, vous êtes fourbu, non?
Bah oui, en plus cette nuit il a fallu sortir. Enfin, c'est...
Oui.
Quand c'est des vacances, ça fait des souvenirs de vacances, mais là c'est pas des vacances et c'est compliqué. Quoi.
Ouais, là il faut retourner bosser le matin et en effet vous avez raison, les maisons restent chaudes. Je vais vous dire, c'est idiot, mais ce matin moi j'ai ouvert le placard, j'ai sorti un verre juste pour boire de l'eau, le verre était chaud.
Oui, mais c'est ça, mais dans ma chambre, il fait
trop. C'est possible, le verre était chaud, quoi.
C'était pas un placard, c'était le lave-vaisselle.
C'était le placard, Mathieu.
Cette nuit, je crois qu'on est descendu à 18 et ma chambre, il fait 32. Alors qu'elle s'est toute ouverte depuis hier soir. Donc, vous voyez, ça sort pas. On a mis des ventilateurs, tout. Les vieilles maisons, c'est bien beau, mais comme on m'a dit, quand le chou est rentré.
C'est ça, ça met du temps à rentrer, donc au début on est content, et puis ensuite j'imagine qu'effectivement on met plus de temps à la sortir. Thierry, courage, j'espère que la nuit prochaine vous allez pouvoir rentrer dans votre lit, et n'hésitez pas surtout à nous appeler demain matin pour nous dire si vous avez pu réinvestir la maison. Merci Thierry, comme Thierry, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 32-16, il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est au moins 1000 morts supplémentaires que l'on décompte la semaine dernière. Tout premier bilan de Santé publique France après la canicule, un chiffre qui sera forcément revu à la hausse. Bonjour Didier Birig. Vous êtes le secrétaire général du syndicat FO Santé. Bonjour. Vous êtes vous-même infirmier. Pour vous, la ministre de la Santé, elle doit présenter ses excuses. C'est votre parti pris dans un instant, vous nous le dites. 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Des funérariums saturés, des décès à l'hôpital, mais aussi beaucoup chez des personnes isolées. Un premier bilan fait état d'au moins 1000 décès supplémentaires la semaine dernière à cause de la canicule. Bonjour Didier Birig. Vous êtes le secrétaire général du syndicat FO Santé. Votre parti pris ce matin, c'est que la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, elle doit présenter ses excuses aux familles des victimes. Pourquoi est-ce qu'à vos yeux, le gouvernement est en partie responsable ?
Parce que cette situation était prévisible depuis très longtemps, hein, 2003, la première canicule, 2017, 2018, et que tous les prévisionnistes en météo nous l'avaient dit, comme quoi ces épisodes allaient revenir, et que on savait gouverner, c'est prévoir, hein, donc il fallait prévoir cette situation, comme quoi à un moment, eh ben, on allait avoir des canicules plus longues, et donc on savait pertinemment que les hôpitaux n'étaient pas prêts pour accueillir une nouvelle canicule. Et donc je pense que ce gouvernement se doit, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire comme quoi les pertes de chance et les décès font partie du risque financier. Alors quand on voit que depuis le début d'année, voilà, on nous a retiré.
Vous voulez dire que c'est quasiment un choix ? Ça veut dire que c'est quasiment, enfin, c'est-à-dire que c'est un choix. C'est-à-dire que c'est dans l'arbitrage, en quelque sorte, le choix de protéger ceux qui effectivement ont succombé à la canicule n'a pas été fait.
Alors moi, je vous dis que lorsque quelque part l'hôpital est en grande difficulté financière, qu'il est en déficit, qu'on lui retire encore 3,5 milliards, c'est-à-dire qu'on lui retire des moyens pour pouvoir investir de l'argent, pour pouvoir accueillir de nouveaux personnels, eh ben on fait le choix de le mettre en difficulté. Et donc à partir de ce moment-là, on sait que quand l'hôpital est en difficulté et qu'il y a soit une nouvelle pandémie, soit une crise de ce type-là, eh ben que l'hôpital va être
Qu'aurait-il fallu faire et qu'est-ce qui aurait sauvé, j'allais dire, c'est au moins 1000 décès supplémentaires?
Bah écoutez, je ne sais pas si on aurait pu les sauver tous les 1000. En tout cas, il est sûr qu'au niveau des urgences et dans les établissements publics de santé, avoir des services avec des climatisations pour pouvoir accueillir les malades dans de bonnes conditions aurait pu certainement éviter qu'on ait un certain nombre de décès dans nos structures, ça c'est certain. Après, je pense que il y a le fait que chaque individu réagit autrement à la chaleur, et donc c'est vrai que quand on arrive dans un grand âge, des fois il est difficile de passer au travers des mailles. Mais je pense qu'on aurait pu en éviter un certain nombre. Et je l'ai dit, les décisions qu'a pris la ministre là sur les dernières semaines, à part les derniers jours, à part de lancer le plan blanc, hein, et de passer donc le dispositif Orsan au niveau 3, tout ce qu'il pouvait faire ne changeait absolument rien. C'était en amont qu'il fallait bouger, et c'est là où rien n'a été fait, bien au contraire. Retirer des moyens, encore 1,5 milliard début d'année, en nous disant, après une ponction de 3,5, il fallait encore nous enlever 1,5 milliard. Donc vous faites le total, ça fait 5 milliards au moins pour les hôpitaux pour cette année, et puis, grand seigneur, là, on vient nous dire, mais ne vous inquiétez pas, on vous donne 100 millions pour de la clim.
Voilà, 100 millions pour la clim, c'est ce qui a été annoncé hier. Vous avez l'air de dire que c'est dérisoire.
Ben oui, au regard des 5 milliards qui nous sont retirés sur les budgets, 100 millions, on nous les donne pas. Ça veut dire qu'on nous retirera 100 millions de moins à l'enveloppe financière qui devrait faire tourner les hôpitaux sur les besoins réels.
Ça suffit 100 millions pour mettre la clim dans les hôpitaux? On a parlé la semaine dernière d'un certain nombre de chambres d'hôpitaux, hein, où les gens sont censés être soignés, protégés, où ils sont déjà en souffrance, et des chambres où à l'intérieur il faisait 36 à 40 degrés.
Oui, moi je pense que 100 millions c'est insuffisant. Vous regardez en psychiatrie, je vis pas très loin d'un hôpital psychiatrique où il y a des unités pour malades difficiles, c'est-à-dire des malades qui sont la nuit enfermés dans leur chambre, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Il reste encore un certain nombre d'unités qui ne sont pas climatisées, où les malades, je vous assure, la nuit sont couchés nus à même le sol pour trouver de la fraîcheur. Climatiser ces services, c'est pour certains impossible parce qu'ils sont vétustes, donc il faut soit les fermer, soit les reconstruire. Je crois que l'enveloppe de 100 millions est très largement insuffisante au regard de ce qu'on a besoin. Mais je vous le rappelle, cette enveloppe de 100 millions, c'est de l'argent qu'on va nous retirer en moins. Donc c'est pas de l'argent qu'on nous donne, c'est ce qu'on va pas nous enlever. le discours est pas tout à fait le même. Je crois que la ministre, elle a essayé de faire comme tous les ministres en situation compliquée comme aujourd'hui, hein. Elle joue le pompier et elle essaye par tous les moyens de trouver de faire de la communication. C'est ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, elle a pas été très, très bonne. Nous, on l'a rencontrée il y a 3 jours. On lui a demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et bien, on voit bien qu'ils savent pas trop puisqu'ils nous demandaient à nous, organisation syndicale, des solutions, si on pouvait pas les aider à trouver des solutions.
Ça veut dire Didier Bric que oui. Au fond là c'était des solutions à la petite semaine si je vous entends bien. Géraldine Demory nous disait tout à l'heure que la météo de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 8 jours, annonçait déjà un retour de forte chaleur. Ça sera pareil, on n'est pas prêt.
Non, on sera pas plus prêt. Je pense qu'à certains endroits on aura peut-être récupéré des clims mobiles pour pouvoir rafraîchir, mais je sais pas si vous avez tenté, vous, d'essayer d'en avoir une, là, ces derniers jours.
C'est en rupture. Je recevais le patron d'Intermarché cette semaine sur RMC, oui. C'est en rupture.
Mais bien sûr, et puis ce qu'il y a, c'est que dans les établissements, nous avons des procédures pour pouvoir faire des achats. Quand un établissement doit acheter pour des sommes importantes qui dépassent des millions d'euros, il est obligé de passer par des marchés publics, il est obligé de faire ça sur des semaines et des mois.
Donc ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, c'est sûr.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en colère, parce que nous, les organisations syndicales, toutes, et Force ouvrière en première, on n'arrête pas de dénoncer la situation catastrophique de l'hôpital depuis des mois. Vous savez, je pense que ils espèrent une chose, c'est que mardi, la température est baissée, et puis qu'il y ait
qu'on oublie, qu'on passe à autre chose. Mais effectivement, voilà, on sait que ça va revenir, c'est important. Et d'ailleurs, dirait Didier Bric, un préavis de grève a été déposé pour ce jeudi par vous-même et d'autres. Merci Didier Bric, donc secrétaire général du syndicat FO Santé, infirmier vous-même. Et notez qu'à 8h30, le directeur général de la sécurité civile, Julien Marion, viendra faire un premier bilan donc de la situation de la canicule. C'est l'heure de remonter le temps, 7h20. Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, un colloque est organisé ce soir à l'Assemblée nationale sur les ovnis.
Mais les ovnis existent-ils? Eh bien, en tout cas, Apolline, ce qui est sûr, c'est que plusieurs phénomènes restent totalement inexpliqués par la science aujourd'hui.
Et puis, dans 5 minutes, il y a Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier, notre historien à nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Cet après-midi, le premier colloque sur les objets volants non identifiés aura lieu au Parlement. Une rencontre qui va réunir des militaires, des scientifiques, des politiques, c'est très sérieux.
Et oui, tout ça a été organisé par un député LFI et un député Horizon. D'après Arnaud Saint-Martin, donc un des députés organisateurs, le but de ce colloque sur les ovnis, c'est de sortir, je cite, du sensationnalisme, des fantasmes, pour nous approprier de manière rationnelle une question qui suscite un intérêt important. Et effectivement, c'est une question qu'on prend déjà au sérieux, puisqu'il existe un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Mais non.
Ça s'appelle le GEPAN et c'est rattaché au très sérieux Centre National d'Études Spatiales.
Est-ce que les ovnis, c'est un sujet qui suscite vraiment de l'intérêt en France?
Alors évidemment, si on se compare aux États-Unis, beaucoup moins, puisque là-bas, les extraterrestres, c'est un débat de société permanent. Mais il y a quand même plusieurs phénomènes inexpliqués qui ont passionné la France. Et un des tout premiers, ça s'est passé le 17 février 1956. Nous sommes en pleine nuit dans la tour de contrôle de l'aéroport d'Orly. A priori, tout est normal, rien à signaler. Sauf que vers 3h du matin, un objet non identifié apparaît sur les radars des contrôleurs aériens. L'engin va beaucoup plus vite qu'un avion. Il est 2 fois plus gros. C'est la stupeur et la panique.
Une enquête très sérieuse va être menée.
Oui, et plusieurs pilotes d'avions vont confirmer les faits. Eux aussi, depuis leur cockpit, ont vu un objet volant qui irradiait de lumière. L'engin a bel et bien existé, ça ne fait aucun doute. Mais personne ne sera jamais capable de déterminer de quoi il s'agissait. Cet ovni, Apolline, il va même gagner un surnom. On l'appelle le fantôme d'Orly.
Et puis, il y a une histoire encore plus troublante.
Ah, une histoire très très troublante qui se passe en 1965 à Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence. Le 1er juillet, à l'aube, un agriculteur qui s'appelle Maurice Mas tombe nez à nez dans son champ avec un énorme vaisseau qui avait la forme d'un ballon de rugby. L'agriculteur s'approche doucement et là, deux créatures avec des yeux globuleux de petite taille, environ 1 mètre de haut, s'approchent. Il pointe vers lui un objet qui ressemble à une arme, une sorte de fusil. Alors on ne sait pas trop ce que c'était, mais en tout cas l'agriculteur dira qu'après ça, il a été immobilisé, comme paralysé, et qu'il a vu le vaisseau s'envoler.
Est-ce que son témoignage va être pris au sérieux ?
Alors, au début, moyennement, et puis après, oui, puisque des scientifiques vont venir vérifier l'état du champ de Maurice Mass. Et effectivement, dans la Terre, ils constatent que les traces d'un engin correspondent exactement à ce qu'il avait décrit. Plus tard, le GEPAN va confirmer cette version des faits en classant cette affaire comme un cas officiellement inexpliqué. Valensole reste la référence française en matière de rencontre du troisième type.
Incroyable. Merci beaucoup, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et c'est l'heure d'Arnaud Demange à 7h25.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, mon invité, ce sera le patron de la sécurité civile, Julien Marion.
C'est un spécialiste de la gestion de crises, de canicules, de feux de forêt, de tremblements de terre, d'ados qui refusent de poser son téléphone à table, oui. De votre femme qui tombe sur un SMS compromettant. Il sait gérer tout type de crise, Julien Marion. C'est un peu le Bruce Willis français. En cas de catastrophe, c'est lui qu'on appelle.
C'est l'équipe, c'est Bruce Willis. Alors, un problème de canicule ? Eh ben bougez pas, je vais vous larguer une bombe super atomique dans le soleil, il va plus nous emmerder. Allez, ça y est, c'est fait. Je rentre, mission accomplie les gars, il n'y a plus de soleil, regardez, il n'y en a plus.
Bah non monsieur Willis, c'est juste que vous avez atterri à Cherbourg, il n'y a jamais de soleil.
Yippie-caille, pauvre con.
Alors, il est directeur de la sécurité civile et c'est un métier où tu dois avoir le sang froid.
Oui, tout à fait.
Même s'il fait très très chaud,
voilà.
Tu dois savoir tenir tes nerfs, quoi. Moi, je sais que je serais trop immature pour ce job-là. Je jouerais avec la sirène des pompiers et tout, je serais nul. Alors, quelle leçon à tirer de cet épisode caniculaire ? 1. Le pote qui a un loft avec une grande baie vitrée, il ferme sa gueule, il se la joue un peu moins. Et le pote avec le loft, on peut s'en passer, mais ne vous fâchez pas avec celui qui a une piscine. Tenez vos amitiés. Alors, samedi soir, il y a eu des orages. Les gens étaient heureux, j'ai trouvé ça fou. Ils levaient les bras en l'air en disant « Ah ! De la pluie ! De la pluie !» Ils étaient avec leur Tahiti douche dehors, comme dans la pub, tu sais. Tahiti ! Se savonner, comme dans les années 90. J'avais l'impression d'assister au début d'une nouvelle religion. C'était super.
C'est une pub de vieux.
Et alors, c'est qu'on se savonne pas.
C'est les métros, oui, cette pub, ça me faisait rêver grave.
On se savonne pas que dans les années 90. Chacun aura compris ce que je voulais dire. Alors, face à la répétition des épisodes caniculaires, le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, il s'appelle Éric Brocardi, il a déclaré « On ne peut pas mettre un pompier à chaque porte ». Et c'est vrai que c'est mieux pour eux. C'est mieux parce que ça pourrait être très dangereux. Vous imaginez le pauvre jeune pompier qui sonne à la porte d'une cougar. « Bonjour madame, ça va, vous n'avez pas trop chaud ?»«
Oh si, beau pompier, j'ai chaud, j'ai très chaud !»«
Eh ben, il faut vous hydrater et prendre des douches fraîches, madame. »«
Mademoiselle !»« Mademoiselle Chevrillon !» Je suis en flamme. Qu'attends-tu, soldat du feu ? Sors ta lance et éteins-moi.
Ouais, je vais vous laisser, madame.
Oh, restez, je m'évanouis. Il me faut du bouche à bouche.
Alors, courage aux pompiers et rendez-vous avec Julien Marion à
8h30. Et on embrasse Edwige. C'était donc Arnaud Demange et on vous retrouve à 8h15. Il est 7h28. À tout de suite pour la météo et le journal. Attention, Géraldine nous le dira, ça commence à être derrière nous, mais ça pourrait revenir. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Rafale de vent, déluge de pluie et grêlons de la taille d'une balle de golf. Après la canicule, les orages s'abattent notamment sur le Puy-de-Dôme, vous l'entendrez. Jamais un crash d'avion de loisir n'avait fait autant de morts en France. 11 victimes, l'enquête se poursuit à Tomblaine, près de Nancy. C'est une information RMC, le dispositif voisin vigilant enregistre plus 14% d'inscrits cette année. Un succès inédit à l'approche des grandes vacances.
Près de 250 000 éclairs ont traversé le ciel du pays hier.
Après la canicule, place aux orages et ils ont déjà frappé le Puy-de-Dôme hier soir. La commune de Combronde notamment a connu un épisode bref mais très intense qui a pris de court les habitants comme Patrice.
Ça a tout de suite grêlé en fait. Ça a quasiment pas pu, ça a tout de suite grêlé et ça s'est pas arrêté pendant 10 minutes. Quoi. Et ce qui est tombé semblait un petit peu moins gros que des balles de golf quoi. Et on est sorti pour voir les dégâts. Les voitures ont quand même pas mal souffert, même si on les avait protégées. Toute la végétation, donc voilà, tout est haché. Mais pour l'instant, au moins, les Velux ont résisté. Après la toiture, il faudra faire appel à un professionnel. Ici, la commune de Combronde, les alentours, de ce que je sais, il y a des maisons qui sont sévèrement touchées. Quoi. Et effectivement, c'est assez impressionnant. Quoi. C'est de plus en plus souvent, mais l'intensité, jamais vue. À ce point-là, rarement. Quoi.
La canicule et ses conséquences. Santé publique France comptabilise environ 1 000 décès supplémentaires par rapport au mois précédent. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir et dont il sera notamment question lors du comité interministériel de crise organisé aujourd'hui en fin d'après-midi autour de Sébastien Lecornu. Chez RMC, 7h32, 11 morts, aucun survivant. Et cette question qui demeure ce matin, comment un avion de loisir a-t-il pu se cracher en plein décollage? Eh bien, l'enquête se poursuit à Tomblaine, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, où s'est produit donc hier l'accident d'aviation légère le plus meurtrier de France. 5 personnes venues faire un baptême de parachutisme, 5 moniteurs et le pilote de l'appareil se sont crachés en pleine zone résidentielle, sous les yeux de certains de leurs proches et laissant toute une commune sous le choc, Lucas Laubert.
En rentrant du travail hier midi, Mario se rend compte que quelque chose ne va pas.
J'arrive chez moi et je vois la police, les pompiers et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est sa femme chez lui, visiblement choquée, qui lui raconte ce qu'elle vient de voir.
Elle parlait avec ma fille, ils ont vu cet avion passer très bas et il y avait un bruit bizarre. Et puis après, elle a entendu, boum, un grand bruit.
L'avion de tourisme s'est écrasé à seulement 200 mètres de chez eux. Aucun survivant à bord. Madeleine voisine également, les yeux dans le vide, ne sait que dire.
C'est terrible, c'est terrible.
Choquée, mais consciente aussi d'avoir évité le pire.
Ça aurait pu être chez nous. Les amis, les copines, les familles, appelez.
Tout le monde s'inquiétait pour vous aussi?
Ah oui, bah oui, hein, tout le monde.
Parmi les victimes de l'accident, 2 infirmiers à bord pour un baptême de parachutisme. Tristesse profonde pour Thierry Péché, le président du conseil départemental de l'ordre infirmier.
C'est une famille, les infirmiers. Hein. Et là, que des collègues décèdent comme ça, alors qu'ils souhaitent faire son parachute, c'est affreux. C'est dramatique pour tout le monde. Et si on peut accompagner tout le monde, je vais en le faire.
Proche des victimes. Mes témoins de l'accident, une cinquantaine de personnes au total ont été accueillies au sein d'une cellule psychologique.
Le reportage de Lucas Laubert, envoyé spécial d'RMC en Meurthe-et-Moselle. C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au dispositif Voisins Vigilants, plus 14% sur un an. Et le but, Constance Bostoen, c'est donc de permettre aux riverains de signaler une situation suspecte.
Oui, ce dispositif, c'est une application disponible gratuitement sur téléphone qui permet aux habitants, d'une part, de signaler des comportements suspects dont ils sont témoins. D'autre part, aux communes d'informer leurs administrés en leur donnant quelques bons conseils, par exemple sur les cambriolages l'été, ce qui explique un phénomène d'adhésion en hausse en ce moment, d'autant que les résultats de cette application sont concrets, selon Frédéric Delanouvelle, directeur général adjoint de Voisins Vigilants.
On a fait un sondage avec l'IFOP en 2023 qui montre que 84% des maires qui ont adopté le dispositif constatent une baisse du nombre de cambriolages. Et 89% constatent une baisse du sentiment d'insécurité de leurs administrés.
C'est un dispositif qui a été créé il y a 10 ans. Il est bien accueilli notamment par la police municipale au niveau local. Police municipale qui a accès à l'application. Attention toutefois aux dérives potentielles. Le président de l'Association des policiers municipaux de France, Thierry Colomard, rappelle qu'il ne faut en aucun cas se faire justice soi-même. Il alerte, je le cite, sur la crainte que des milices privées se créent, même si à ce jour, aucune remontée en ce sens n'a été faite aux créateurs de l'application.
Constance Bostoen du service police-justice de RMC. Les États-Unis.
RMC. Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le Canada, premier qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Ils ont battu l'Afrique du Sud 1-0 et les Bleus essaieront de les imiter demain soir, 16e de finale contre la Suède. En attendant, 3 matchs au programme aujourd'hui. Brésil-Japon à 19h, Allemagne-Paraguay à 22h30 et le choc entre les Pays-Bas et le Maroc, ce sera la nuit prochaine à 3h du matin. Lui est de retour dans le bassin des championnats de France de natation. Léon Marchand à Saint-Étienne ce matin, il fera le 200 mètres brasse. La star de la natation est en grande forme, magistrale sur sa première course, c'était samedi. Julien Richard, il a encore mis des étoiles dans les yeux de ses fans.
La compétition est terminée depuis bien longtemps, mais ils sont plusieurs dizaines dans les tribunes à le guetter, l'attendre. Lola et sa sœur Zoé, t-shirt Team Léon, fait maison et pancarte à la main.
Léon, nos bulletins sont bons, notre récompense, une photo avec toi.
Fan de Léon Marchand.
Bah parce qu'il nage bien et puis ça, c'est un exemple.
Le quadruple champion olympique sort de l'eau, s'approche.
Ouais, super, merci Léon.
Et signe tout ce qui lui passe sous la main.
On peut faire une photo, Léon?
C'était trop bien, enfin, de le voir aussi frais, enfin, c'était énorme.
Bah, c'est le meilleur nageur du monde.
Impressionnant comme il va vite et tout.
Donc c'est vraiment un exemple à suivre.
Vraiment, ça fait très plaisir aux enfants. Merci Léon. Merci.
Un champion ça.
700 jours après les Jeux de Paris, il apprend toujours à faire avec cette notoriété.
C'est jamais simple, je fais ce que je peux. Je pense que je le gère beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Forcément, j'ai envie de donner, de partager. Mais j'ai aussi envie de nager vite et de ne pas perdre trop d'énergie. Donc ça va être un équilibre. Je vais donner ce que je peux, je vais essayer de partager au mieux. Et en même temps, je vais essayer de me concentrer sur ce que je fais dans l'eau.
Et avec l'émotion qui fait parfois se mélanger un peu les mots.
Merci Léon Marchand beaucoup.
Le public stéphanois n'a qu'une chose à dire à la star des bassins.
Julien Richard au championnat de France de natation à Saint-Etienne pour RMC.
C'était le journal de Rachel Sadodine. Il est 7h37. Tiens, le quintet, Rachel, pardon, j'allais vous le zapper. Mais c'est sur l'hippodrome de Clairefontaine à 18h30.
Oui, et le pronostic de Dimitri Blanc-Loy de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 10 Hamilton Air et son outsider, le 2 Marie Shelley.
Et il y a le quintet pour jouer et gagner. Et puis il y a la prime de match. N'oubliez pas, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer pour gagner votre nouvelle prime de match. Le montant est colossal. Écoutez bien, il y avait 30 000 euros au départ. On a rajouté 500 euros à chaque but marqué. On en est à 77 500 euros. 77 500 euros. Retenez bien ce montant parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si vous connaissez le montant de la prime de match, elle est pour vous 77 500. Pour ça, il faut vous inscrire. Vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Tirage au sort aujourd'hui avant 20h. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et on part au 32-16, Aurélien qui est avec nous depuis la Vendée. Vous nous appelez de Saint-Martin-des-Tilleuls. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
Ça se rafraîchit ?
Ça se rafraîchit beaucoup là dans le Don. Bah, déjà 15 degrés le matin, donc c'est beaucoup mieux que ce qu'on a connu la semaine dernière où il y avait le Hellfest par exemple, je pense à Mathieu, où on était plutôt
Mathieu,
une quarantaine de degrés. Mmh. Où on a été une quarantaine de degrés, donc ce matin dans les maisons c'est descendu à 23 degrés.
Ah, 23 degrés dans la maison.
Au lieu de 31 la semaine dernière.
Donc vous arrivez à rafraîchir à peu près l'intérieur de la maison, parce que vous avez entendu des témoignages ce matin de ceux qui nous disaient on a beau ouvrir les fenêtres, on a énormément de mal à rafraîchir l'intérieur.
Non, non, là c'est vrai que ce matin c'était un bonheur d'avoir moins de 23 dans la maison.
Et ça fait du bien du coup de se lever tôt. Pour une fois, on est content.
Ouais. Exactement, ça fait du bien d'avoir de l'air dans la maison.
Merci Aurélien pour votre témoignage ce matin. C'était donc le point météo depuis la Vendée. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'accident d'aviation légère le plus meurtrier de l'histoire de France. 11 personnes ont perdu la vie hier dans la région de Nancy. Tous participaient à un baptême de saut en parachute. Bonjour Jean Serrin. Vous êtes le spécialiste de l'aéronautique. On vous connaît bien sur RMC, sur BFM TV. Vous êtes ancien commandant de bord. Comment expliquer ce crash? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous nous expliquerez le scénario, ce que l'on a vu, ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas. Vous nous le dites dans un instant. On va aussi appeler la présidente de la Fédération des pros de parachutisme. Ils sont en deuil. Elle connaissait plusieurs des victimes. On vous explique tout ça dans un instant. 7h39 sur RMC.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Un dimanche de saut en parachute qui s'est transformé en drame. 11 morts dans un tragique accident d'avion près de Nancy. 5 instructeurs, 5 élèves, le pilote de l'avion. Ils sont tous décédés. Jean Serrin sera avec nous dans un instant, consultant aéronautique pour RMC et BFM TV. Ancien commandant de bord, il va nous expliquer ce qu'il a bien pu se passer. Mais avant cela, je voudrais qu'on donne la parole à Tiffany Blom. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme. Ce qui devait être un dimanche classique, une sortie, parfois familiale, parfois amicale, aller faire son baptême de saut en parachute, ça s'est transformé en drame absolu. Vous connaissiez l'un des instructeurs décédés, c'est toute une communauté qui est endeuillée.
Tout à fait, je confirme. Des journées comme ça peut faire partie du métier, mais comme on ne souhaite pas en vivre, je confirme.
Vous dites que ça fait partie du métier, ça veut dire que quand on fait ce métier-là, on sait qu'on prend des risques ?
Absolument, tout à fait. Des risques qui sont encadrés, qui sont mesurés, sur lesquels on a tout un tas de protocoles et de procédures. Et heureusement, ce type d'accident est d'une extrême rareté. Ça arrive. Et on est tous profondément touchés de ce qui se passe aujourd'hui.
Je vous imagine évidemment très émue. Je le disais, vous connaissiez l'un des instructeurs décédés. C'était 5 instructeurs, c'était un pilote. Ils avaient l'habitude, ils faisaient ça tous les jours. Enfin, je veux dire, c'était pour eux la routine.
Tout à fait, absolument.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui avaient prévu peut-être de faire un baptême en parachutisme, mais comme vous pouvez l'imaginer, qui sont inquiets, qui hésitent?
Bien sûr, je leur dis qu'ils peuvent continuer à y aller en toute sécurité parce que ça reste un accident d'avion et non un accident de parachutisme. Donc dans l'aéronautique, effectivement, faut laisser l'enquête au BEA faire la lumière sur ce qu'il a pu se passer. Mais ça reste un accident, heureusement isolé, d'une extrême rareté. Dans notre métier aujourd'hui, c'est encadré. Il y a tout un tas de procédures qui existent et qui font que, voilà, depuis des années, depuis 88, il n'y a pas d'accident, de ce type-là. Donc, je dis que la vie continue et que la profession reste pour autant extrêmement encadrée et sécurisée.
Et très très soudé là, on le sent bien évidemment et on entend votre émotion. Tiffany Blum, merci. Jean Serra est dans ce studio, bonjour. Vous êtes le consultant aéronautique d'RMC et de BFM TV. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce crash?
Alors pour l'instant, vraiment l'information la plus claire que l'on a eue hier en fin d'après-midi, c'est le témoignage de cette personne qui était avec son enfant devant chez lui, juste à côté de l'endroit où s'est crashé l'avion. Il a bien expliqué que il a entendu l'avion qui avait décollé, il entendait le bruit du moteur qui s'approchait de sa maison, et d'un seul coup, plus de bruit de moteur, et quelques secondes après, le bruit du crash. Donc, on en a tiré la conclusion que après le décollage, il y a eu une panne moteur. Ils étaient à peine à une trentaine de mètres, peut-être 40 mètres de hauteur par rapport au sol. Et je vous rappelle que, en face de la piste, il n'y a que des maisons. À droite, il y a un énorme centre commercial. Il n'y a que des maisons. Est-ce qu'il a essayé de tourner à gauche pour aller chercher un champ qui se trouve sur le côté gauche de la piste? Toujours est-il que quand il est parti à gauche, visiblement, il a décroché et malheureusement, ils sont tous morts.
C'est rarissime, effectivement. D'abord, est-ce qu'on peut parler de cet avion? Il s'appelle un Pilatus PC6B2H4. C'est un tout petit avion, hein?
Oui, c'est un avion qui est homologué pour transporter jusqu'à 10 passagers, plus un pilote, ça fait 11 personnes. C'est un avion qui est connu depuis des années et des années, des dizaines d'années, qui est énormément utilisé par le monde des parachutistes, parce que justement, comme on peut le voir sur certaines photos, c'est un avion, il a d'abord les ailes hautes, c'est-à-dire au-dessus du fuselage et non pas en dessous. Donc les ailes sont hautes et ensuite sur le côté, il a une porte qui s'ouvre en glissant vers l'arrière, ce qui permet aux parachutistes de pouvoir sauter sans aucun problème. C'est un avion qui est connu, qui est simple.
Il s'agissait de parachutistes, vous le disiez. On s'est donc tout de suite demandé aussi pourquoi ils n'avaient pas sauté, en quelque sorte, mais ils étaient trop bas. L'avion était très bas. Hein.
Tout à fait. Entre le moment où il décolle, le moment où il se crash, l'enquête nous le dira, mais peut-être 40 secondes, 45
secondes. Ah oui, donc c'est immédiatement après le décollage.
C'est immédiatement après le décollage. Il arrivait à peine à 30-40 mètres de hauteur. Autant dire que le temps de décoller, d'arriver à 30-40 mètres, il lui a fallu à peu près une vingtaine de secondes. Et ensuite, le crash, 20 secondes après, au total, une quarantaine de secondes, il n'avait aucune possibilité d'agir.
Jean Serra, on le sait, il n'y a pas de boîte noire sur ce type de tout petits avions. Donc il faudra une enquête, mais on n'aura pas, en quelque sorte, ce que d'habitude, la mémoire de cet avion, il ne parlera pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que le moteur, une avarie, une pièce, est-ce que le pilote a pu tout simplement lâcher? Qu'est-ce qui a pu se passer? Quels sont les scénarios possibles?
Pour moi, à ce stade de ce que l'on sait, le moteur s'est arrêté. Est-ce qu'il s'agit d'un problème moteur? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de carburant? C'est-à-dire le carburant d'un seul coup qui n'arrive plus au moteur, donc le moteur s'arrête. Ce qui expliquerait que malgré le crash, il n'a pas pris feu. Ça pourrait être une explication. Là-dessus, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? On va sur place dès hier, tous les spécialistes de l'enquête aéronautique ont commencé par photographier tout au sol pour repérer chaque morceau centimètre par centimètre et de manière à voir comment déjà l'avion a heurté le sol. Est-ce que, comme on a entendu à un moment donné une personne qui a dit l'avion est descendu en piqué, d'autres disent non, il est embarqué sur le côté gauche et il était en descente. Tout cela va pouvoir nous l'expliquer et nous amener des solutions. Ensuite, bien sûr, l'enquête, elle va regarder tous les depuis le suivi technique de l'avion. Est-ce que tout avait été fait convenablement? Est-ce que le plein carburant, tout ça, avait été fait normalement? Toutes ces choses-là vont nous amener vers d'un probable résultat.
Et l'enquête ne fait donc que commencer. Merci beaucoup Jean Serrin, consultant aéronautique pour RMC et BFM TV. Vous êtes ancien commandant de bord. Il est 7h49 sur RMC et dans un instant, c'est la voix de droite. C'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Le mur de la dette inquiète de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce mur?
Alors d'un côté, l'effort, les économies, mais de l'autre aussi, la récompense. Que peut-être la récompense, vous me demandez? Pourquoi pas la suppression de l'impôt sur le revenu?
Ah, la suppression de l'impôt sur le revenu.
Clair et net.
Allez, vous nous le dites dans un instant, 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, Louis Sarkozy nous dira qu'il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Mais d'abord le bonus, Mathieu Farrell-Williams, en Essonne.
Les habitants de la cité de la Grande Borne ont dû se frotter les yeux, se pincer. Mais oui, le chanteur et producteur américain, par ailleurs styliste chez Vuitton, Farrell-Williams, a bien participé au tournage d'un clip à Grigny la semaine dernière. Un titre de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, où Farrell apparaît, ainsi que le rappeur Quavo. Le réalisateur cherchait un lieu authentique, dit-il, Paul Hunter, hein, qui l'on doit des clips pour Snoop Dogg, Marilyn Manson, Whitney Houston ou encore Lenny Kravitz. Après plusieurs visites, il a eu un coup de cœur pour ce quartier de Grigny, c'est ce que dit le maire communiste de la ville. En attendant le clip, la chanson, ça donne ça. Un tournage organisé en 5 jours, le réalisateur tenait à ce que des figurants soient de Grigny, les associations, le club de foot ou encore les danseurs locaux. Tout s'est monté en 5 jours seulement.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Nous sommes assis sur un baril de poudre. Voilà ce que dit le ministre des Comptes publics à propos des finances publiques. Il annonce déjà des nouvelles économies. La Cour des comptes assurait la semaine dernière que tous les signaux sont au rouge. Pour vous, il faut agir vite.
Mais le problème avec le socialisme, Apolline, c'est qu'on finit toujours par manquer de l'argent des autres. C'est Margaret Thatcher qui dit ça. En 76, 50 ans plus tard, l'argent des autres, je veux dire l'argent des Français, commence à manquer. La dette publique va dépasser 320 milliards d'euros cette année, c'est 118% du PIB. Le service de la dette à lui seul, c'est-à-dire l'argent qu'on paye aux banques pour avoir le droit de continuer à emprunter, va coûter 77 milliards en 2026. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Nous ne sommes pas en danger de faillite, Apolline, nous sommes complètement en faillite.
Alors Louis Sarkozy, président de la République, ça donnerait quoi niveau économie?
Ah, écoutez, déjà merci pour la promotion, j'accepte immédiatement.
Bien sûr, je le vois bien, mais enfin faut se faire élire, mon bon.
Même si voilà. Je ne suis pas rasé. Premier décret, première minute du premier jour, je divise par deux le maquis des plus de 1200 comités, commissions et hauts conseils inutiles et illisibles que compte notre magnifique pays. Le Conseil économique, social et environnemental coûte, chers amis, 34 millions d'euros à produire des rapports que personne ne lit. On a un haut commissaire au plan inventé uniquement pour caser François Bayrou. Tout ça, c'est fini. C'est 5 à 7 milliards d'économies par an. Et c'est la première semaine. Deuxièmement, nous avons 41 ministres.
41,
vous avez 41. Ce matin, à 6h30 d'ailleurs. Il y a de meilleurs réveils. L'Allemagne en a 15. Je passe à 20 portefeuilles. 300 à 500 millions d'économies. Et un gouvernement, enfin, lisible. Troisièmement, 300 000 postes en moins dans la fonction publique administrative sur 5 ans par la règle simple du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Quatrièmement, privatisation de tout ce que l'État n'a aucune raison d'opérer. France Télévisions, Radio France, La Poste, SNCF Voyageurs et ouverture du capital sur EDF, Engie, Orange, ADP. 80 à 100 milliards de recettes pour le budget. Et cinquièmement, pour les symboles. Les symboles sont très importants, qui comptent autant d'ailleurs que les chiffres. 577 députés ramenés à 400. 348 sénateurs à 250. Moins de politique, mais bien mieux payés. Ça prend quelques semaines. Et accessoirement, ça sauve la France.
Vous parlez beaucoup d'économie. Autre solution dans ces cas-là pour un gouvernement, augmenter les impôts?
Il faut faire exactement, il faut faire totalement, il faut faire précisément l'inverse.
L'inverse?
C'est-à-dire un choc d'économie, je viens de le dire, mais un choc fiscal en retour. Concrètement, c'est supprimer l'impôt sur le revenu.
Supprimer l'impôt sur le revenu?
Oui, alors 95 milliards d'euros rendus en français en un trait de plume. Rendez-vous compte de la puissance d'une telle mesure. Et tenez-vous bien. C'est mathématiquement possible, c'est parfaitement possible. Si vous économisez 200 milliards de dépenses publiques sur le quinquennat, ce que je propose, vous pouvez baisser les impôts de 100 milliards et désendetter en même temps. La suppression de l'impôt sur le revenu, c'est le symbole. C'est dire aux Français, vous n'êtes plus les vaches à lait de l'État, vous redevenez les patrons de votre propre travail.
C'est complètement démagogique.
Non.
Non.
Absolument pas. Le démagogue, c'est pas moi. C'est celui qui explique aux Français que tout va bien, que les choses vont continuer ainsi, que notre système tiendra, que la dette, on s'en occupera plus tard. Moi, je dis l'inverse. Voilà l'effort, c'est vrai. Mais voilà aussi la récompense. On taille 200 milliards dans la dépense. On rend 100 milliards aux Français et on désendette en même temps. Et la note souveraine remonte à AA+, soit 8 à 12 milliards d'économies par an, rien que sur la charge d'intérêt. C'est pas de la démagogie, Apolline. C'est de la comptabilité.
Mais si on supprime tous ces postes, mais si on supprime tous ces ministères, est-ce que l'économie ne va pas devenir un univers d'une très grande brutalité?
Alors très bien. Regardons un pays qui l'a fait. Le Canada, dans les années 90, sous Jean Chrétien et Paul Martin, gouvernement libéral, pas du tout conservateur, a coupé la dépense de 20% en 4 ans. Le résultat, retour à l'équilibre, baisse des taux, 10 ans de croissance soutenue, aucun effondrement. La brutalité, c'est pas la réforme, c'est la dette qui explose, c'est les taux d'intérêt qui montent, c'est la note qui dégringole, et un beau matin, l'État qui ne peut plus payer ses fonctionnaires. Ça, c'est brutal. Et c'est précisément ce qui nous attend si on ne fait rien.
Merci Louis Sarkozy. Demain, à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une, eh bien, ce chiffre, combien de morts de la canicule? Premier bilan, 1000 morts avancés par le Santé publique France. La météo, attention, vous le verrez, la canicule pourrait revenir. Il est 7h56 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Faut-il craindre une hécatombe après la canicule? Vous allez voir que la surmortalité est telle que les funérariums sont saturés en région parisienne. Certains ne peuvent même plus accueillir les corps de victimes de la chaleur. Nous serons dans ce journal près de Nancy, où les enquêteurs seront de retour ce matin sur les lieux du terrible accident d'avion qui a fait 11 morts, c'était hier. Et nous serons aussi à New York, où les Bleus sont les grandes stars. Vous allez voir de la Coupe du Monde à la veille de leur 16e de finale contre la Suède.
Le constat est terrible, il n'y a pas assez de place dans les funérariums à Paris.
Conséquence de la canicule qui se termine et d'une surmortalité qui est donc de 1000 décès de plus que d'habitude depuis mercredi dernier, d'après Santé publique France, avec une augmentation de 40% des décès à domicile et la grande majorité des victimes âgées de plus de 65 ans. Voilà pourquoi on manque de place, hein, littéralement, dans les funérariums de région parisienne, c'est ce que nous dit Amélie Courtet.
On travaille jour et nuit, me racontent des employés de pompes funèbres. À Paris, le téléphone ne cesse de sonner.
Pompes funèbres Bertrand.
Au bout du fil, Véronique Bertrand tente de rassurer au mieux les proches en deuil.
Là, on a été très étonnés. Enfin, on a été en 48 heures sur 10 à 15 décès, donc à domicile.
D'habitude, c'est
de 3 dans un week-end.
Et face à cet afflux en pleine canicule, les funérariums sont saturés. Elle doit parfois trouver des places à 100 km du lieu du décès, ou sinon...
On va être sur des mises en bière dites immédiates, c'est-à-dire qu'on va mettre les défunts dans un cercueil, au domicile, par mesure d'hygiène, et puis très difficile pour les familles, parce que ne reverront pas leur défunt une fois qu'il sera mis en fait dans le cercueil.
Des conditions qui empêchent de se recueillir dignement.
Ça me rend malade de voir cette situation.
Zouer Ertelli, responsable du funérarium de Paris Orly, complet, il estime avoir refusé 150 corps ce week-end.
Je n'exagère même pas. J'ai des familles qui m'appellent avec des corps qui sont en train de se décomposer dans des domiciles, et les gens, ils sont en panique totale. On ne peut pas laisser les choses comme ça, c'est pas décent.
Lui dit avoir sollicité la préfecture pour avoir des conteneurs frigorifiques afin de tripler ses capacités d'accueil, sans réponse pour le moment.
D'où cette question, faut-il craindre une hécatombe? Eh bien, Julien Marion, le directeur général de la sécurité civile, y répondra tout à l'heure. Il sera l'invité d'RMC au micro d'Apolline à 8h30. Conséquence de la chaleur, il y a le risque d'incendie, les risques d'incendie près de la Méditerranée. Le niveau est élevé dans 7 départements, très élevé, même dans le Vaucluse, 2 massifs carrément interdits d'accès dans le Var, autour de Vidauban, où il faisait encore plus de 41 degrés hier. Conséquence des orages, tiens, le trafic des Transiliens sera perturbé toute la semaine en région parisienne à 50 ans Yvelines, où la gare a été touchée par un impact de foudre durant le week-end. Et alors, quelles conséquences à tout ça? Sonia Gobry, du service politique RMC. Le gouvernement va donc se réunir dans l'après-midi pour une cellule interministérielle, histoire de dresser le bilan.
Sébastien Lecornu attend un bilan précis. Chaque ministre devra lister ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné dans son périmètre. Le Premier ministre salue la gestion de crise dans les EHPAD, mais il alerte. D'autres points peuvent devenir préoccupants en cas de canicule répétée. Il évoque le rafraîchissement des hôpitaux, la robustesse des réseaux d'eau et d'électricité, la circulation des trains. Autre sujet d'inquiétude, la prise en charge des personnes âgées isolées. Sous pression, l'exécutif veut montrer qu'il anticipe les prochaines canicules, alors que les oppositions l'accusent de mauvaise gestion. Le RN dénonce l'incompétence du pouvoir. La gauche fustige l'impréparation du gouvernement. La patronne des écologistes, Marine Tondelier, appelle à établir les responsabilités politiques et certains, dit-elle, devront en tirer les conséquences.
Et donc, cette réunion qui est aussi prévue pour, je les cite, préparer d'éventuels nouveaux épisodes. Parce que Météo France, hein, Géraldine Demory, Météo France parle d'une nouvelle semaine compliquée, pas celle-ci, mais la suivante.
Non, on va voir effectivement quelques jours de répit, mais ça pourrait bien ne pas durer. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est que la semaine prochaine, il va à nouveau faire chaud. On va être au-dessus des normales de saison. Reste à savoir dans quelle proportion. Vous savez que pour faire des prévisions météo, on se base sur des modèles qui vont donner plusieurs scénarios. Et donc, sur la période à venir, tous les scénarios donnent une remontée des températures. Et la majorité penche clairement pour un retour des fortes chaleurs, notamment à partir de mardi prochain. Sur les modèles les plus pessimistes, on voit pratiquement toute la France avec des températures maxi entre 38 et 40 degrés. Et quasi tous les scénarios voient un épisode qui va durer potentiellement jusqu'au 20 juillet avec à nouveau la mise en place d'un dôme de chaleur qui concernerait l'Europe de l'Ouest. Alors attention, l'échéance est encore loin. Il faudra attendre pour vraiment connaître l'intensité de l'épisode et sa durée.
Et il est évident qu'on aura l'occasion d'en reparler durant toute la semaine avec vous, Géraldine. Il est 8h04 sur RMC et on est au lendemain du terrible drame près de Nancy, précisément à Tomblaine, où un petit avion s'est écrasé. C'était hier, faisant 11 morts, 5 élèves qui s'apprêtaient à faire leur baptême de saut en parachute, 5 moniteurs et le pilote de l'avion. Le comble de l'horreur, c'est que des proches des victimes ont vu de leurs yeux l'accident, puisqu'ils étaient sur place pour assister au saut en parachute. Deux enquêtes sont ouvertes sur cet accident, qui est déjà l'accident d'aviation légère le plus meurtrier de France. Maxime Clié-Ruzat du service police-justice à RMC, vous êtes l'envoyé spécial sur place. Les enquêteurs seront sur le terrain, seront de retour sur le terrain ce matin. Maxime Clié-Ruzat sur place pour RMC. On va retenter. Maxime, est-ce que vous êtes là et est-ce que vous confirmez que les enquêteurs seront de retour sur le terrain ce matin? Bon, manifestement compliqué d'avoir des infos ce matin sur ce qui se passe à Nancy, donc au lendemain de ce dramatique accident d'avion donc qui a fait 11 morts hier matin, d'ailleurs dont on n'a aucune explication toujours au moment où on se parle. Ce miracle, maintenant miracle au Venezuela, il y a un père et son fils, un adolescent, qui ont été secourus 4 jours après le double séisme, au terrible bilan, puisqu'on parle désormais de 1450 morts au Venezuela, 50 000 disparus d'après les Nations Unies et quasiment 200 immeubles qui se sont effondrés. Des nouvelles des Bleus à la Coupe du Monde. L'équipe de France qui est arrivée à New York à la veille de son 16e de finale contre la Suède. Ce 16e de finale, ce sera demain soir. Les Bleus qui logent dans le même hôtel que pour leur premier match de la compétition qui avait déjà lieu à New York. Les Bleus, tiens, qui rencontrent un franc succès auprès des Américains. C'est ce que vous avez constaté, hein, Valentin Jamin?
Oui, des maillots bleus dans les rues de New York, Philadelphie, Los Angeles, mais portés par des locaux comme Logan.
J'aime simplement les joueurs, l'équipe est forte, la France a les meilleurs joueurs du monde. Elle a gagné la Coupe du Monde deux fois et je pense qu'elle peut le refaire.
Ici, le football n'est pas encore un sport populaire, les Américains se rangent donc plutôt derrière ceux qui gagnent, explique Daniel.
Je supporte la France, je suis américain donc je soutiens aussi mon pays, mais il faut être honnête, la France est favorite, elle a quasiment deux équipes, j'ai un maillot de Michael Olise chez moi.
Et ils aiment aussi les statistiques, d'où leur amour pour un joueur.
Mbappé.
Probably Mbappé.
Allez Mbappé.
Dans les tribunes françaises, certains ont été étonnés de trouver des Américains qui ont racheté des places. Antoine, restaurateur à Boston, dresse aussi ce constat.
Moi, j'ai jamais vu autant de maillots de l'équipe de France dans les rues. La France a une grosse cote à Boston et aux États-Unis. Tous les grands joueurs qui sont là, ça augmente la popularité, on va dire, des Bleus.
Et d'ailleurs, le maillot vert aux couleurs de la Statue de la Liberté est en rupture de stock depuis quelques jours.
Le Canada, première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en gagnant 1-0 contre l'Afrique du Sud. Il y aura 3 16e de finale ce soir, on les vivra sur RMC. Ce sera la nuit prochaine aussi, ça commencera à 19h par Brésil et Japon. Et puis on va avoir 2 événements qui se télescopent. En plus de la Coupe du Monde, il y aura le Tour de France à la fin de la semaine, grand départ de Barcelone, en présence de Romain Grégoire qui est devenu champion de France pour la première fois de sa carrière à 23.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demanche. Allez, il est 8h13. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Je suis dans un état pas possible. Aujourd'hui, c'est une journée affreuse, Apolline.
Mais pourquoi non?
J'ai 44 ans.
Bon anniversaire! Bon anniversaire!
Je suis vieux.
Oui.
Je suis vieux.
Oh, ça va encore.
Merci pour la musique, la régie. C'est gentil. Il y a eu une musique, j'ai pas rêvé.
Oui, tout à fait, je l'entends.
Ils y ont pensé, c'est sympa quand même. Ils y ont pensé parce que c'est marqué en gras dans le texte et surligné trois fois. Mais voilà, maintenant je suis vieux. Comment je vais faire pour tenir avec les fortes chaleurs? Vous savez, à chaque anniversaire, il y a des gens qui demandent qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une clim. Heureusement, Géraldine Demory nous le disait, c'est la fin de la canicule. On va enfin pouvoir respirer, recharger les batteries et être en pleine forme pour la prochaine canicule dans une semaine, a priori. Et alors, vous avez vu Monique Barbu?
Ah oui, Monique Barbu.
Donc, c'est la ministre de l'écologie qui a dit « Mais je suis horrifiée par tous ceux qui veulent mettre la clim partout !» La clim partout, c'est pas ça qui résout le changement climatique, hein? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce qu'elle était de mauvais poil, Monique Barbu.
Non.
À quoi ça sert? Bah, il y a eu 1000 morts quand même. C'est un peu comme dire, mais c'est pas avec des parachutes qu'on va résoudre la gravité. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Elle a été patronne de WWF avant. Bah, tu comprends pourquoi il y a quasiment plus de pandas en fait. C'est fini. Et alors, si la canicule s'arrête, qu'est-ce qui va devenir Kevin Floury?
Ah oui.
Vous savez, le monsieur météo de BFM, le pauvre gars qu'ils envoient sur les toits par 50 degrés. Kevin Floury, vous êtes au Détroit d'Ormuz. Ça va, Kevin?
Oui, mais pourquoi je suis là?
Eh bien, pour traverser le Détroit à la nage, Kevin.
Mais il y a des mines partout.
Eh oui, Kevin. Mais on doit savoir s'il est navigable. On doit buzzer sur Instagram. Une pierre deux coups. Allez-y.
Vous avez raison, il y avait une mine.
Eh ben, c'est super, Kevin. Merci de vos efforts.
Et il y en avait une deuxième.
Oh, vous nous gâtez, Kevin. Vous êtes sympa avec nous.
Sarah Knafo a mis fin au suspense. Elle souhaite qu'Éric Zemmour soit candidat à la prochaine présidentielle.
Oui, donc ce sera pas elle. Il y avait la rumeur. Mmh. Eh ben, non. Mmh. La candidate pour Reconquête, ce sera pas elle. Ce sera Éric Zemmour. C'est dommage. J'aurais adoré avoir Éric Zemmour en première dame.
Ah oui.
Après la rumeur Brigitte Macron est un homme, on aurait eu la rumeur Éric Zemmour est une femme. Éric Zemmour s'appelle en réalité Nadia Croque-en-Bois. Et son kiff dans la vie, c'est pas la politique, c'est la pâtisserie. C'est pour ça qu'il veut envoyer les femmes à la cuisine. Voilà. J'adore ça. Ce serait génial de le voir se justifier en permanence. Mais puisque je vous dis que je suis un homme, allez, je vous prends tous au bras de fer. Et il perdrait et ça relancerait la théorie du complot ad vitam. Et après, il irait faire l'opération pièce jaune. Bonjour les enfants, les gamins. Mais pleurez pas, je suis venu vous apporter des sous. Non, pas pour toi. Toi, t'en as déjà plein grâce à la CAF, ça se voit.
Bon ben, merci madame.
Monsieur, c'est monsieur.
C'est monsieur. Et puis comme à chaque fin du mois de juin, le sondage est sorti. Avec qui les Français voudraient-ils partir en vacances?
Eh oui, en politique, alors roulement de tambour de Winner is numéro 1 avec 32%, Jordan Bardella. Et tout en bas de la liste avec 4%, Bernard Cazeneuve. Mais pourquoi? Pourquoi? T'es méchant. Macron est à 13%. Alors 13% des Français veulent que Macron parte en vacances avec eux. Et 87% voudraient qu'il parte en vacances tout court et voilà, définitivement. Gérard Larcher est en bas du classement. Bon, bah ça c'est normal, hein. Genre un buffet à volonté au Club Med, tu te lèves 10 minutes après lui, bah t'as plus rien à bouffer. En tout cas, moi je sais avec qui Apolline rêve de partir en vacances. François Bayrou.
Ah oui, tiens.
Parce qu'avec lui, tes vacances ont l'air de durer 2 ans.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait ce soir, François? Madame de Malherbe.
Oui.
Ce soir,
oui.
Plusieurs possibilités sont sur la table pour passer la meilleure soirée possible.
Oui.
Mais il ne faut pas se précipiter. Oui, mais donc, on fait quoi? On fait un resto, on fait... Madame de Malherbe.
Oui, vous pouvez m'appeler Apolline.
Vous me parlez d'un restaurant. Vous dites resto pour aller... Plus vite,
c'est bon.
Je le comprends.
Non
mais
idée,
alors
là.
Quoi? Un mini golf, un bar, un karaoké, du vélo, quoi? Prenons les choses une par une. Non, putain, non. Allez, c'est quand la rentrée. Les enfants, on va au restaurant. Les enfants, arrête d'embêter ta sœur, toi, et enlève ton bonnet de bain, t'es ridicule.
Mais je ne suis pas votre enfant avec un bonnet de bain. Je suis Éric Ciotti, le maire de Nice. Vous m'avez emmené par erreur à la sortie du face-à-face. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait du petit?
Ah, maman, je suis à la mairie de Nice, il n'y a que des vieux, viens me chercher!
Allez, préparez bien vos vacances. Et à demain!
Oh, quel kiff! Merci beaucoup, Arnaud Demange, qui est avec nous tous les jours en direct à 7h20 et 8h15. Et d'ailleurs, on vous retrouve
non seulement à l'antenne en direct, non mais... seulement en podcast, mais aussi en tournée partout en France, à Toulon, à Hyères, à Saint-Étienne, à Issingeaux, tiens, c'est, dis donc, oui, mais c'est nouveau ça.
C'est nouveau.
À Issingeaux, à Biarritz, à Montpellier et à Gaillac ce samedi, un spectacle RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie, avec les peintures Seigneurie. Vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et on va partir dans le Puy-de-Dôme, retrouver Carole qui nous appelle de Vic-le-Comte. Bonjour Carole.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Carole, comment ça va? Vous êtes retraitée dans le Puy-de-Dôme et oui, vous avez eu très très chaud, mais ça y est, ça se rafraîchit.
Ah, du pur bonheur. La maison, enfin l'habitation, elle est à 24 degrés.
Ah, 24?
Elle est descendue à 24, il fait frais, il a plu, c'est super.
Vous étiez à combien là? Vous étiez montée à combien la semaine dernière?
À plus de 30.
À plus de 30 à alors, l'intérieur.
Oui, à l'intérieur, et alors que ce sont des maisons qui sont de 2018.
D'accord.
Et qui sont quand même assez isolées.
Qui étaient censées être bien, bien isolées. Comment vous avez fait,
oui.
Comment vous avez fait pour tenir, Carole?
Oh là là, 5h30 debout, j'ouvrais tout.
Ouais.
8h, je fermais tout, et on était dans le noir.
Ah oui, c'est ça.
Ah, mais j'ai eu pire. À Marseille, j'étais au 4e étage sous les toits.
Oui.
Dans des immeubles qui dataient de la guerre, donc pas d'isolation. Mmh. Et je me languissais d'aller travailler le matin pour la clim.
Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est terrible. C'est terrible.
C'est dur,
vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi dans la vie, Carole? Parce que vous êtes retraitée maintenant.
J'ai le droit de le dire.
Bah oui, bien sûr que vous avez le droit de le dire. Enfin, ça, je sais pas ce que vous allez me dire, Carole. J'espère que je n'ai pas pris un énorme risque.
Je travaillais chez Orange.
Ben vous travaillez chez Orange, ben on peut tout à fait le dire que vous travaillez chez Orange.
Ah bon?
Oui. Oui. C'est pas grave de travailler chez Orange, Carole.
Non, mais comme c'est...
comme c'est une marque, on sait plus trop. Mais non, mais nous sur RMC, on se dit tout. On se dit tout sur RMC. Bon, Carole, prenez bien soin de vous. On est content que la température se soit redescendue. J'ose pas vous le dire, Carole, mais il paraît qu'à partir de la semaine prochaine, ça va quand même remonter. Mais enfin, profitez bien déjà cette semaine. On va être un petit peu mieux. Merci Carole en tout cas d'être passée par le 32-16. Il est 8h21 et justement on va revenir sur cette canicule, les difficultés qu'ont rencontré les Français, comment faire. Il était en première ligne, le patron de la sécurité civile est avec moi dans un instant, Julien Marion. Julien Marion, la sécurité civile, c'est au-dessus des pompiers, c'est simple, c'est ceux qui s'occupent de toutes les crises, de toutes les canicules, mais aussi des incendies. Et attention, il nous le dira, c'est pas parce que les températures baissent que les corps retrouvent vraiment leur force. Il faut rester très très prudent. Le bilan et les conseils donc du patron de la sécurité civile, c'est dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC, le point sur l'actualité, Quentin.
Et quelles conséquences après la canicule là, qui se termine avec 5 derniers départements en alerte orange ce matin dans le sud-est et en Corse? Le gouvernement va se réunir dans l'après-midi pour un nouveau comité interministériel de crise afin de dresser un bilan là, des fortes chaleurs et préparer aussi d'éventuels nouveaux épisodes. Conséquences de la chaleur, les risques d'incendie près de la Méditerranée, niveau élevé dans 7 départements, très élevé même dans le Vaucluse. 2 massifs interdits d'accès dans le Var, autour de Vidauban où il a fait plus de 41 degrés hier. Les enquêteurs de retour sur le terrain ce matin à Tomblaine, près de Nancy, où un petit avion s'est écrasé pour une raison encore inexpliquée. C'était hier, bilan dramatique de 11 morts, pire accident d'aviation légère en France. À bord se trouvaient 5 élèves qui s'apprêtaient à faire leur baptême de saut en parachute, 5 moniteurs et le pilote de l'avion. Une info ce matin dans la course à l'Élysée, la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon annonce qu'elle soutiendra Édouard Philippe, le maire du Havre et ancien Premier ministre l'année prochaine. Elle précise qu'elle ne quittera pas son poste au gouvernement. À la Coupe du Monde, le Canada, première équipe qualifiée pour les 8e de finale en battant l'Afrique du Sud 1-0, c'était hier soir, but dans les arrêts de jeu. 3 autres 16e de finale ce soir et la nuit prochaine. Le premier, ce sera à 19h sur RMC, bien sûr, entre le Brésil et le Japon. Les Bleus sont arrivés à New York à la veille de leur 8e de finale contre la Suède. Et puis les fortes chaleurs, tiens, qui se cantonnent mais près du sud-est maintenant. Quelques températures pour cet après-midi. 20 à Brest, 24 à Biarritz, 27 à Clermont, 28 à Paris, 30 à Lyon, 31 à Grenoble, 34 à Bastia, 36 à Marseille. Attention aux orages à nouveau cet après-midi sur le Massif Central et près des frontières de l'Est.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est le patron de la sécurité civile, Julien Marion, chargé de la gestion des crises. C'est la sécurité civile qui est montée au front cette semaine, qui a rafraîchi les corps, qui a sécurisé les événements, qui a fait de la prévention. Mais attention, il nous dira que ce n'est pas fini. Rendez-vous dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Julien Marion.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Vous êtes vraiment à la tête de tout ce qui a été en première ligne cette semaine et depuis 10 jours que la canicule a commencé. Vous êtes notamment le chef des pompiers. C'est la sécurité civile qui a dû gérer au front, en quelque sorte, à la fois le premier bilan, la sécurisation des événements, mais aussi aller au-devant de tous ceux qui ont souffert. Ce premier bilan qui a été avancé par Santé publique France, on dénombre au moins 1000 décès supplémentaires la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que le pire est derrière nous ou pas ?
Pas forcément, parce que comme ça a été très bien dit, l'effet sanitaire de la vague de canicule, il va continuer à se faire sentir dans les jours qui viennent. On le sait, les organismes réagissent avec retard aux effets de la vague de canicule. Et donc on sait que cette semaine encore, pour encore 5 à 10 jours, on va continuer malheureusement à mesurer les effets de la vague de canicule que notre pays vient de connaître.
Ça veut dire que ceux dont les maisons, dont les corps ont pris chaud, vont prendre énormément de temps à retrouver une activité, une vie, un quotidien normal.
Oui, la bonne nouvelle, c'est que les températures ont chuté, là qu'on est sorti de la vague de canicule, donc on va pouvoir retrouver des conditions météorologiques un tout petit peu plus normales, mais il faudra rester extrêmement vigilant, et je pense en particulier en disant ça aux personnes âgées isolées. C'est d'elles qu'il faut s'occuper et se préoccuper maintenant pour savoir comment elles vont et pour aller prendre de leurs nouvelles.
Ça veut dire quoi, concrètement? Quel est le constat que vous faites d'abord de la semaine écoulée? À quoi avez-vous dû faire face en particulier?
On a fait face à une vague de canicule d'une ampleur exceptionnelle. Un phénomène météo vraiment d'une ampleur inédite, ça a été très largement commenté. La semaine dernière, au pic de la canicule, il faisait plus chaud en France que dans 99% sur 99% de la surface planète. De la Terre. Donc c'est quelque chose de complètement hors norme. Donc il a fallu gérer les conséquences de ça et les conséquences sanitaire, parce qu'on le sait, une canicule prolongée, ça a des effets sur l'organisme et notamment sur les organismes les plus fragiles, mais pas que. On voit bien qu'il y a eu aussi parmi les victimes de cette canicule des personnes en pleine santé, dans la force de l'âge, mais qui malheureusement ont subi les effets de la chaleur en continuant à faire du sport.
En surestimant parfois leur capacité à faire face.
Exactement, la canicule, elle touche tous les organismes et pas uniquement les plus vulnérables. Alors à quoi est-ce qu'on a fait face? On a fait face à ça avec un mot d'ordre et absolu qui a guidé l'action des pouvoirs publics depuis le début de la canicule: ne pas subir, anticiper et surtout protéger le maximum les Français.
Qu'est-ce que vous avez vu? On sait que BFM TV vous a accompagné, par exemple, a accompagné un certain nombre de vos équipes sur le terrain, qui parfois étaient appelées pour la chute d'un lit, mais se rendaient compte en réalité une fois sur place que la personne âgée, isolée, était en réalité en coup de chaud. Ça veut dire quoi? Quand vous arrivez, vous voyez des gens qui sont en hyperthermie, ont une fièvre extrêmement élevée, n'arrivent plus à réguler leur température?
C'est exactement ça. On a constaté des phénomènes qu'on connaît, effectivement l'hyperthermie réagit à des températures élevées et prolongées. Vous savez, à Apolline de Malherbe, on a appris de la canicule de 2003, et on sait beaucoup mieux prendre en charge ces hyperthermies aujourd'hui que ça n'avait été le cas malheureusement en 2003. Je vais vous donner un exemple très concret. Cette vague de canicule, elle a frappé l'ensemble du pays, mais elle s'est fait notamment se ressentir durement à Paris, en région parisienne, en Île-de-France. C'est là que les effets sanitaires ont été probablement les plus intenses. Les pompiers de Paris, ils se sont équipés de kits canicule, c'est-à-dire que quand ils étaient appelés ces derniers jours pour aller prendre soin d'une personne en situation d'hyperthermie, se déplacer avec un kit canicule. Qu'est-ce que c'est? C'est une baignoire mobile, pliable, démontable, dans laquelle ils mettent de la glace, de l'eau froide, pour immédiatement refroidir, faire baisser la température du corps. Et ben, vous savez, ça, le fait d'avoir pu déployer ces kits canicules ces derniers jours, on pense que ça a sauvé à peu près 300 vies à Paris.
Vous pensez avoir, rien que ces derniers jours, sauvé 300 vies?
Bien sûr, toute l'action des pouvoirs publics depuis le début de la canicule, elle n'a obéi qu'à ce seul objectif: sauver des vies et protéger les Français. Vous savez, quand on a pris des décisions d'interdiction de grandes manifestations, de grands rassemblements,
Solidaise, la marche des fiertés,
mais plein d'autres événements partout sur le territoire, c'est pas pour, si vous me permettez l'expression, emmerder les Français, c'est pour sauver des vies, et je pense qu'on a sauvé des vies. Vous avez donné l'exemple de Solidaise. L'annulation de Solidaise, qui n'a pas été décidée de gaieté de cœur, ça a permis très concrètement de redéployer une quarantaine d'ambulances, des sapeurs-pompiers et des associations agréées de sécurité civile partout dans les centres de secours de la région parisienne.
Ça veut dire que non seulement ça a potentiellement sauvé des vies sur place si ce festival avait eu lieu finalement. Mais c'est aussi les équipes qui auraient été mobilisées, qui devaient être mobilisées pour ce festival, qui ont pu être déployées sur l'ensemble et qui ont donc sauvé aussi d'autres vies par ailleurs.
Exactement, bah, c'est 40 ambulances et puis les pompiers qui vont avec et qui les font fonctionner, bah, ils ont pu pendant ce temps-là aller prendre en charge des victimes de la canicule, car il y en avait beaucoup.
Il y en a que vous avez sauvés, il y en a que vous n'avez pas pu sauver. Et lorsque vous êtes arrivés dans un certain nombre d'appartements, de lieux isolés, parce que beaucoup sont morts chez eux, vous avez dû faire face à des décès parfois. De quoi sont morts ces personnes âgées parfois isolées ?
D'hyperthermie, des effets de la canicule sur l'organisme, sur les défaillances en série ensuite qui se font sentir sur des organismes fragilisés. Mais vous savez, vous parlez des personnes âgées. Quand je disais qu'on avait appris de 2003, très concrètement, dans les EHPAD, il y a plus.
Les EHPAD ont tenu. Est-ce qu'on peut dire ce matin?
Les EHPAD ont tenu. Et si les EHPAD ont tenu, c'est précisément parce qu'à la suite de la canicule de 2003, on a mis en place toute une série de mesures qui font que dans les EHPAD d'aujourd'hui, il y a au minimum une pièce réfrigérée. Les EHPAD ont tenu. Les EHPAD ont tenu.
Est-ce que les personnes qui sont mortes chez elles, est-ce qu'on peut dire ce matin que s'ils avaient eu la clim, ils ne seraient pas morts ?
Je ne peux pas répondre à cette question. C'est très difficile à dire parce que c'est très difficile de dire ce qu'aurait été l'impact d'une climatisation sur un organisme affaibli. Les médecins, je ne suis pas médecin, mais les médecins vous diront que une canicule a pour effet d'accélérer des phénomènes des pathologies. Donc c'est très difficile de répondre à une question comme ça.
La vigilance météorologique baisse, mais la vigilance sanitaire demeure. Voilà le communiqué de la mairie de Paris. Comment vous expliquez que Paris et la région parisienne aient été aussi violemment touchées ?
Bah d'abord parce que ça a été un des endroits où il a fait le plus chaud. Et pas le seul, mais c'était vraiment Paris et l'Île-de-France ont été vraiment parmi les territoires les plus touchés par cette canicule. Ensuite, parce que vous le savez, à Paris et en région parisienne, il y a une concentration, une densité de population très 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 élevée qui fait que mécaniquement, les effets d'une vague de canicule s'y font probablement plus durement sentir qu'ailleurs.
Avec cette vigilance qui doit donc perdurer, vous l'avez dit, parce que les effets sanitaires peuvent arriver en cascade et de manière décalée, d'autant plus qu'on attend à nouveau potentiellement une nouvelle vague de chaleur dès la fin de la semaine. Est-ce que les corps auront le temps, j'allais dire, de reprendre de l'air, de se rafraîchir, avant de devoir à nouveau affronter un retour de la chaleur ?
C'est tout l'objectif. Hein. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure qu'on était dans l'anticipation permanente, donc là, la vague de canicule que nous venons de connaître est derrière nous, heureusement et tant mieux. Dès ce soir, on se retrouve en cellule de crise autour du Premier ministre pour penser le coup d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si on a un deuxième épisode de chaleur équivalent ou moins important qui vient frapper notre pays dans les prochains jours. Quels enseignements on tire, si je puis dire, à chaud de ces 10 jours de canicule qu'on vient de connaître.
À la une d'ailleurs de cette cellule interministérielle de crise à laquelle évidemment vous participez, dont vous êtes l'un des premiers acteurs, il y a un certain nombre de chapitres qui vont être auscultés, j'allais dire. Il y a la question du domicile. Premier point, est-ce que sur cette question-là, c'est-à-dire les personnes isolées, est-ce que vous avez en quelque sorte une cartographie ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez où ils sont ? Qui sont les derniers au bout de la route ? On a parlé des postiers qui allaient devoir être mobilisés, on parle évidemment des pompiers, mais aussi des voisins. Est-ce qu'il y a une solidarité ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont au-delà, j'allais dire, et qui ne sont plus à portée des autres ?
Oui, il y a une solidarité et ça c'est quand même un motif de d'optimisme. C'est que là encore, on a appris de 2003. Vous savez, dans chaque commune aujourd'hui, vous avez une liste des personnes isolées, vulnérables. Et ce qui a été une des premières choses qui a été demandée lors de la première réunion de la cellule interministérielle de crise au début de la canicule, c'était via chaque mairie d'aller prendre des nouvelles de chaque personne inscrite sur cette liste. Et je pense que ça a été fait. Et là aussi, je pense que ça a sauvé des vies.
La question de l'école, ça. Ça peut être derrière nous, puisque c'est la fin de l'année scolaire mardi. Donc, si une nouvelle vague caniculaire arrivait, au moins, il n'y aurait plus cette question-là. Mais reste la grosse inquiétude sur l'hôpital. Est-ce que, une fois que vous constatiez parfois qu'il y avait des personnes en détresse et que vous les ameniez à l'hôpital, est-ce que l'hôpital a tenu ?
L'hôpital a tenu, Apolline de Malherbe. L'hôpital, le système de soins a été fortement, très fortement sollicité, mais il a tenu. Et je pense qu'il faut quand même rendre hommage, donner un immense coup de chapeau à l'ensemble des personnes soignants de ce pays qui ont été fortement, très fortement et intensément mobilisés au cours des derniers jours, mais l'hôpital a tenu. L'hôpital a tenu sans remettre en cause la capacité d'absorber des personnes qui tous les jours viennent pour se faire soigner pour tout à fait autre chose.
Mais est-ce qu'il tiendra encore si des vagues de canicule arrivent pendant l'été à des moments où il y a un certain nombre de soignants qui seront en vacances ? Ça n'était pas le cas pour l'instant.
C'est l'objet de la mobilisation du plan Orsan niveau 3 qu'a décidé le Premier ministre et que ça permet précisément, pour faire face à ce type de situation, de dégager des capacités, d'ouvrir des capacités d'accueil supplémentaires pour prendre en compte des...
Est-ce qu'ils vont pouvoir partir en vacances, les soignants?
Je sais pas, je peux pas vous répondre. Les soignants, comme l'ensemble des acteurs du secours, ont besoin de se reposer, c'est évident, s'ils veulent pouvoir se mobiliser complètement au profit de nos concitoyens. Mais je sais pas vous dire concrètement qu'est-ce que sera le régime des congés cet été.
Julien Marion, je rappelle que vous êtes le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Quand on voit ce premier bilan, 1000 décès supplémentaires environ qui sont évoqués par Santé publique France, est-ce que vous vous dites chaque jour va gonfler ce chiffre?
On sait qu'une vague de canicule entraîne une surmortalité. C'est le sens d'ailleurs de ce que vient de diffuser hier Santé publique France, mais sur des données très, très parcellaires. Donc le véritable bilan de cet épisode de canicule, on le connaîtra dans quelques semaines, une fois qu'on aura le recul suffisant. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'il soit le plus limité possible. Mais il y aura malheureusement une surmortalité imputable à cette canicule.
Est-ce qu'on sait à peu près ce à quoi il faudra s'attendre?
Non, je peux pas vous dire parce que c'est beaucoup trop tôt. On est encore trop près de l'événement et ce genre de données remonte avec pas mal de décalage.
Avant de passer à la question aussi des incendies, parce que c'est aussi l'autre gros risque, au moment où l'on se parle, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent, qui pourraient avoir le sentiment que ça y est, on peut ressortir, qu'on peut se remettre à faire du sport quand on est jeune et que peut-être depuis une semaine, on s'était interdit de sortir. Est-ce qu'on peut y retourner? Est-ce que ceux qui, ont des fourmis dans les jambes peuvent y retourner ou est-ce qu'il faut rester très très prudent?
C'est des conseils de bon sens. Les organismes sont fatigués par ce qu'ils viennent de vivre. Tous les organismes, pas uniquement ceux des personnes vulnérables et les plus fragiles, les organismes y compris de personnes en très bonne santé. Donc il faut continuer à faire attention, il faut éviter les efforts physiques extrêmes en pleine journée. Nos organismes sont encore fatigués par cet épisode de canicule, donc il faut en continuer à faire très attention.
Nos organismes sont encore fatigués?
Bien sûr, bien sûr. Nos organismes, là, ils viennent de prendre 10 jours de chaleur intense, donc il faut les ménager.
Donc on se repose.
On se repose. Il s'agit pas de dire interdiction absolue de faire du sport, mais il faut le faire si possible dans des locaux climatisés. Enfin, on a quand même des salles de sport qui ont fleuri partout dans nos territoires. C'est plutôt là qu'il faut aller faire du sport plutôt qu'en plein soleil en pleine journée.
Vous avez dit on a tenu. Beaucoup de critiques, très nombreuses, notamment des différentes oppositions, sur l'impréparation du pays. Est-ce que vous les entendez?
J'entends ces critiques, mais je les trouve assez injustes et assez inexactes, parce que précisément, dès qu'on a su qu'un épisode de canicule allait venir frapper notre pays, alors je dis juste que ce genre de phénomène météo, on peut avoir des certitudes à partir de 3-4 jours avant que ça arrive. Avant, on a des probabilités, mais de certitude, c'est 3-4 jours avant. Dès qu'on a su qu'il allait avoir un épisode de canicule qui allait frapper notre pays, mobilisation générale de tous les services de l'État, cellule interministérielle de crise, on y a passé toutes nos journées pour essayer de d'abord mesurer ce qui se passait et surtout anticiper, préparer, ne pas subir.
Quels sont vos regrets? Qu'est-ce qui vous a manqué?
Il y a toujours des regrets, des retours d'expérience à faire. On va d'ailleurs commencer dès ce soir lors de la
réunion.
Avec cette cellule de crise. Il y a peut-être des choses qu'on aurait pu davantage dans la pédagogie de l'action, polir, davantage affiner, etc. Il y a aussi probablement des choses à améliorer sur précisément le dernier kilomètre, ce que vous avez dit très justement tout à l'heure. C'est-à-dire comment aller jusqu'à la personne isolée chez elle. Alors, on a commencé à imaginer un peu dans l'action des pistes, mais je pense que tout ça mérite encore d'être retravaillé.
Mais quand on dit isolé, ça ne veut pas forcément dire au bout d'une toute petite route. Ça peut vouloir dire
à un étage
d'immeuble, et c'est ses voisins qu'on voit rarement, mais dont il faut prendre des nouvelles.
C'est exactement ça. Quand je parlais de mobilisation générale, c'est évidemment la mobilisation générale de tous les services publics, de toutes les autorités administratives, mais c'est la mobilisation générale de chacun d'entre nous. Et c'est la personne isolée, ça peut être le voisin de palier ou le voisin de l'étage du dessus.
Avez-vous assez d'ailleurs de volontaires?
Oui, on a la chance d'avoir dans notre pays quand même non seulement les acteurs du secours, les personnels soignants, mais on a aussi beaucoup des milliers, des centaines de milliers de bénévoles qui ont été fortement mobilisés, et ça c'est aussi une grande force.
L'inquiétude sur les feux de forêt à présent, et sur ce pays qui reste extrêmement chaud, la terre reste chaude, les arbres restent chauds. Où est-ce qu'on en est de ce bilan d'abord des quelques incendies qui ont déjà eu lieu ces derniers jours, et quelle est votre vigilance pour les prochaines heures et les prochains jours?
On va avoir une saison feu de forêt compliquée. Ça, je crois malheureusement qu'on peut le dire d'ores et déjà. En particulier cette semaine, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, on va avoir un épisode de vent, Mistral et Tramontane dans le sud, à partir de demain probablement. Donc le risque feu de forêt va augmenter très nettement. Et donc là, vraiment, moi, ce que je voudrais, c'est lancer un appel à chacun de vos auditeurs. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Et donc, pour essayer de limiter autant que possible le nombre de feux de forêt et les hectares brûlés, pour essayer de préserver les services de secours, les pompiers, les pilotes d'avions bombardiers d'eau, chacun doit se sentir un tout petit peu responsable. On sait qu'on va avoir une saison feu compliquée, mais je tiens à le dire, notre dispositif est prêt. Voilà.
On est prêt, appel à la très grande vigilance donc. Il y a 2 Canadair qui ont été commandés mais qui ne sont toujours pas arrivés. Est-ce qu'ils ne vont pas vous manquer ?
On a 2 Canadair, on a même 4 Canadair supplémentaires qui ont été commandés, 2 en 2024 et 2 cette année, ce qui va porter notre flotte de Canadair à 16 machines à terme. En attendant, vous savez, on a la chance d'avoir une des flottes d'avions bombardiers d'eau parmi les plus fournies de tous les pays au monde. Il y a les 12 Canadair actuels, mais il y a aussi 8 Dash avions bombardiers d'eau, et nous louons chaque été depuis 2023 des capacités supplémentaires, 6 avions légers et 10 hélicoptères bombardiers d'eau. Donc on a la chance d'avoir des moyens et je tiens à le dire, une très bonne disponibilité de ces moyens au début de la saison.
Donc on a les moyens de faire face. Il y a eu déjà cette semaine quelques feux. Est-ce qu'au moment où on se parle, tout est sous contrôle ?
Le week-end a été relativement calme. Enfin, en tout cas, l'activité a été mesurée, mais c'est ce qu'on attendait parce que le niveau de risque était faible. En revanche, sur la semaine, là, je suis très très vigilant parce que le niveau de risque va élevé. Il faut savoir quand même, à Pauline de Malherbe, qu'au moment où on se parle, depuis le début de l'année, il y a eu 7000, un peu plus de 7000 hectares qui ont brûlé sur des feux de forêt.
C'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
C'est plus que l'an dernier.
C'est plus que l'an dernier.
C'est plus que l'an dernier à la même date. Ouais.
Je voudrais qu'on puisse dire un mot aussi, avant de terminer cet entretien, de ce qui se joue au Venezuela, parce que ça paraît loin, mais nous sommes mobilisés, vous êtes mobilisés. Vous avez envoyé, je crois, une équipe de 85 hommes et femmes sur place pour aider à déblayer après le très grand séisme. Ils restent sur place. Est-ce qu'on a encore un peu d'espoir ?
L'espoir, il est heureusement que l'espoir existe jusqu'au dernier moment. On a effectivement 85 sapeurs-sauveteurs qui ont été projetés dès ce week-end au Venezuela, qui sont à pied d'œuvre depuis leur arrivée. Et hier, ils ont pu, avec l'aide de leurs collègues américains, sauveteurs américains présents sur place, ils ont pu sortir vivants des décombres, un père et son fils. Et ça donne.
C'est nos équipes. Enfin,
c'est les équipes de la sécurité civile française. Ce sont les sapeurs-sauveteurs du régiment de Brignoles à qui je veux rendre un hommage. J'ai leur donné un coup de chapeau. Ils sont extraordinaires. Ils travaillent dans des conditions extrêmement dégradées. Vous avez pris connaissance du bilan. 50 000 personnes disparues. Ils sont à pied d'œuvre. Je crois que c'est vraiment pour nous tous un motif de fierté de savoir qu'on est capable d'envoyer à l'autre bout de la planète, dans des circonstances très difficiles, nos sapeurs-sauveteurs et qu'ils sauvent des vies.
Et qu'ils sauvent des vies aussi là-bas. On est à un bilan de plus de 1450 morts. Et en effet, vous le disiez, encore 50 000 disparus. 85 de nos hommes et femmes qui sont donc mobilisés sur place. Un très grand merci d'avoir fait ce premier bilan avec nous ce matin, Julien Marion. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mais vous le dites ce matin, si vous avez réussi à sauver un certain nombre de vies, il faut rester très très vigilant. Nos corps ont été éprouvés, il faut les ménager. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
8h49 sur RMC, le Mondial de Virginie, c'est avec vous. Bonjour Virginie. Et dans un instant avec vous, les toutes dernières infos sur le Mondial avant le 16e de finale des Bleus demain. Mais avant cela, le choix de la rédaction, ça c'est avec vous, Constance Bostoet. Bonjour Constance.
Bonjour.
Vous êtes reporter au service police-justice d'RMC. Alors on a tous déjà vu ces petits panneaux jaunes à l'entrée des villes avec un œil noir dessus, le logo des voisins vigilants. Et c'est une info RMC, il y a plus 14% d'inscrits cette année à ce dispositif qui permet aux riverains de signaler une situation suspecte.
Oui, 1 million de Français font aujourd'hui partie de voisins vigilants et les communes peuvent aussi adhérer. Elles sont plus de 1000 en France. Parmi elles, il y a Rueil-Malmaison. J'ai rencontré Frédéric Dufour, un retraité résident d'un quartier pavillonnaire de la ville. Il utilise l'application Voisins Vigilants depuis quasiment 2 ans maintenant.
Vous avez directement sur smartphone, dans le cadre d'une zone qui est définie, qui correspond à notre quartier. Et lorsque quelqu'un signale qu'un sujet qui est relatif à la sécurité, il va y avoir un petit point qui va s'allumer. Mais sinon, on peut avoir après accès directement au message. Un exemple, on va dire la semaine dernière, d'une personne qui en rentrant chez elle voit un individu qui saute par-dessus une clôture et qui rentre dans une propriété. Bah, immédiatement, cette personne-là a pris contact à la fois avec la police municipale et a signalé ceci d'un voisin vigilant.
Alors lui n'a jamais eu à publier sur l'application, heureusement, mais plusieurs de ses voisins ont été victimes de cambriolage, donc il utilise le dispositif pour se rassurer.
On échange les informations sur nos dates de vacances, on sait qui est là, quand, comment, ceux qui sont là ben, font le tour un petit peu de temps en temps, regardent dans les maisons, donc c'est une forme de vigilance qui est adoptée entre voisins et qui est très utile.
L'application sert aussi à la mairie pour informer les habitants en temps réel. Denis Gabriel, le maire adjoint à la sécurité et à la prévention à Rueil-Malmaison, est celui qui l'a mise en place localement.
C'est aussi un moyen d'alerter de notre côté sur des éléments bien spécifiques. Et honnêtement, ça marche bien dans ce caractère bien spécifique, c'est-à-dire les vols par effraction, les incivilités, le trouble à la tranquillité publique, les vols pour la fausse qualité, les violences infra-familiales et puis les comportements suspects.
Donc Constance, un nombre d'utilisateurs qui grossit d'année en année, comment est-ce que ça s'explique?
La raison, c'est la demande accrue de sécurité par les habitants eux-mêmes, selon Frédéric Delanouvelle, il est directeur général adjoint de Voisins Vigilants et Solidaires.
Les études montrent que aujourd'hui, c'est la priorité numéro un des élus, et c'est l'une des priorités des Français avec le pouvoir d'achat. Donc on a de plus en plus de communes qui nous demandent d'adopter le dispositif. On a beaucoup de communes qui nous contactent depuis le mois de mars parce que les maires ont pris leurs fonctions et que donc ils souhaitent instaurer le dispositif dans leur ville.
Mais du côté des forces de l'ordre, Constance, qu'est-ce qu'on en pense?
Alors c'est un concept qui n'est pas français, qui vient des États-Unis depuis le début des années 2000, mais c'est un concept bien accueilli par la police municipale. Toutefois, Thierry Colomar, le président honoraire de la Fédération nationale des policiers municipaux de France, alerte sur de potentielles dérives.
Ça fonctionne à condition de ne pas se transformer en justicier, en milice locale qui voudrait absolument remplacer la police parce que la police ne fait rien. Ça, c'est pas une bonne chose. Et surtout, ne pas se faire justice soi-même.
Sur leur site, les responsables de Voisins Vigilants se défendent de faire de l'autodéfense. Ils préfèrent le terme de prévention.
Merci beaucoup Constance Bossehen, reporter au service police-justice d'RMC. Je rappelle votre information, plus 14% d'inscrits cette année au dispositif Voisins Vigilance. C'est une info RMC. Il est 8h53.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. On connaît le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est le Canada, vainqueur de l'Afrique du Sud 1-0. Ce soir, l'Allemagne affronte le Paraguay et le vainqueur de ce match sera opposé au vainqueur de France-Suède demain, ça nous concerne.
Ouais, la presse allemande met son sélectionneur sous pression. C'est le moment de montrer ce que tu vaux. Voilà ce qu'on lit ce matin. Il y a le match contre le Paraguay. Mais oui, tout le monde pense déjà à celui d'après, peut-être. Donc, contre la France, qui fait forte impression en Allemagne comme ailleurs. Les Bleus, impériaux sur le terrain. Mais dans le vestiaire, c'est plutôt la cour de récré, une sorte de joie de vivre collective. Quand les joueurs ont félicité Guy Stéphan, qui avait pris la place de Didier Deschamps sur le banc contre la Norvège. Mathieu qui fait le clapping aussi, elle a l'air heureuse, cette équipe de France.
On a aimé notre vendredi soir. Les Bleus font même des rencontres à l'hôtel.
Oui, le Four Seasons de Boston a été privatisé à quelques exceptions près. Shirley a 96 ans, elle vit à l'année dans l'hôtel, il n'était pas question de la mettre dehors. Les joueurs lui font des petits signes régulièrement et Kylian Mbappé lui a même offert son maillot.
He said if they win, he will sign it for me and it will be worth a lot of money.
Il lui a donc promis de signer le maillot si la France gagnait la Coupe du Monde et que ça vaudrait beaucoup d'argent. Il sait s'y prendre, Kylian Mbappé.
C'est Monsieur Plus, hein, Kylian Mbappé pendant cette Coupe du Monde.
Il offre un maillot à une voisine âgée, il montre au balayeur comment enlever l'eau de la pelouse. Et vendredi soir, quand il est sorti du terrain, il n'a pas donné son brassard directement à Aurélien Tchouaméni, mais à l'arbitre, avec une photo qui a beaucoup tourné, où on a l'impression qu'il donne des ordres à Michael Oliver. Ça a beaucoup amusé l'arbitre qui a ajouté la légende « Je suis le capitaine maintenant ».
Look at the shot. I'm the captain now.
Voilà, la ref, c'est Capitaine Phillips, le film avec Tom Hanks.
Il fait ce qu'il veut, Kylian Mbappé, de toute façon. Les Bleus, comme d'autres équipes qui pourraient bien subir une canicule cette semaine.
Eh oui, le répit arrive en Europe. C'est le nord-est des États-Unis qui va être touché avec des températures autour de 40 degrés. Là, les pauses fraîcheurs vont vraiment servir à quelque chose. Puis on peut se dire que c'est peut-être mieux que France-Suède ait lieu à 23h heure française. Demain, 21h, ça faisait 15h locale. Et là, ça aurait été très compliqué pour les joueurs.
Ça n'empêche pas Gianni Infantino de prendre l'avion.
À la canicule, non. La BBC tient les comptes du bilan carbone du président de la FIFA. Rien que pour la phase de poule qui vient de se terminer, Gianni Infantino a déjà déjà parcouru 50 000 km dans son jet, le bilan carbone de 78 personnes pendant un an. Alors parfois c'est justifié, bien sûr, mais quand il fait 150 km en jet juste pour aller donner 3 minutes d'interview dans un studio, peut-être un peu moins. Autant dire qu'on n'en a pas fini avec ses pauses fraîcheurs. Puisqu'on parle de jet, certains en sont privés. L'équipe d'Uruguay, éliminée en phase de poule, pas ce qu'attendait la Fédé. Hop, pour rentrer au pays, elle punit les joueurs. Pas de qualif, pas de jet. Vous n'avez qu'à rentrer comme vous pouvez par des vols commerciaux lambda et vous payez de votre poche.
Et puis on termine par un bilan de la phase de poule. Cette Coupe du Monde bat tous les records.
Alors, il y a les records sportifs. 215 buts pendant la phase de groupe, ça fait plus de 3 buts par match. Alors qu'au Qatar, 172 buts avaient été marqués pendant toute la compétition. Bon, en même temps, plus on met d'équipe, plus il y a de buts. Surtout si c'est déséquilibré. Mais il y a aussi des records moins sportifs. 300 000 hot dogs ont été vendus depuis le 11 juin. Si on les met bout à bout, ça fait 45 km. Ça, c'est les chiffres officiels de la FIFA. Et puis, 2,8 millions de pintes de bière ont été bues. On a atteint le paroxysme le jour du match Écosse-Brésil. 32 000 bières écoulées en une seule journée dans la seule ville de Kansas City. Ça risque de se tasser un peu maintenant que l'Écosse est éliminée.
À 25 $, je crois. Ouais. Elle est hyper chère, la bière.
Ça se vend quand même.
Ouais. Alain Marchal, tiens à le préciser, il connaît le tarif de toutes les bières de Kansas City.
Non, mais merci, je conseille. Ce qui est pas mal sur Instagram, c'est de suivre les comptes justement de ceux qui sont là-bas, des influenceurs. Et qui raconte combien la Coupe du Monde coûte cher. Ah et oui. Il montre tous les prix que tu payes aux États-Unis.
Ah, c'est un budget.
Et c'est un vrai budget.
C'est un vrai gros budget. Virginie, on se retrouve demain en préparation de France-Suède. En plus, demain à 23h, match qu'on va vivre et suivre évidemment en intégralité sur RMC.
C'est dur pour nous. Ouais,
plus l'âge.
C'est dur pour nous. Bon, dans un instant, les GG.
Mais oui.
Quel programme, mon cher Alain?
Alors, dans les grandes gueules, on va s'intéresser justement à la future canicule, ce que nous annonce ce dôme de chaleur qui devrait arriver. Est-ce que vous y êtes prêt psychologiquement? Parce qu'on a vu que ça avait quand même été dur hein, les jours passés, et c'est prévu pour la semaine prochaine. On reviendra sur la mort de Louis à Narbonne, et puis on reprendra tous les derniers faits divers dramatiques. Louis, Liana, Elias, Thomas, Lola, et ces critiques qui disent... les politiques, vous n'avez pas à vous en mêler. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de récupération politique après la mort de Louis? C'est le ministre de l'Intérieur qui dénonce la récupération par l'extrême droite. Mais quand un fait divers, aussi dramatique soit-il, démontre des dysfonctionnements dans l'État, bah c'est normal que les politiques s'en mêlent, non? Bah venez en discuter avec les grandes gueules. À tout de suite. Au 36.